Salut à toutes et à tous, bonjour et bienvenue sur Acropolis, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que tout roule en ce mardi. On est mardi, il est 14h30, c'est les questions d'actualité au gouvernement, vous commencez à connaître le rendez-vous. Je suis très content de vous retrouver. Ah, attendez, faut que je me détende le dos. Ah, comment ça va? Comment ça va les copains? Aujourd'hui c'est Sylvain qui fait la régie. Salut Sylvain.
Bonjour.
Ça va?
Ça va et toi?
Bah ça va bien, content de te retrouver à la régie à l'ancienne.
Ça me fait tout bizarre.
Ah c'est dingue. On en profite pour faire des gros bisous à Thibaut. Des très très gros bisous à Thibaut parce qu'à l'heure où je vous parle, Thibaut il est chez lui. Il a le dos pété, il s'est cassé le dos en remballant le matériel ce week-end après la convention citoyenne pour le climat. Vous savez qu'on est obligé de déménager tout le studio toutes les 3 semaines au Palais Diana à Paris pour vous monter des lives aux petits oignons sur France TV Slash. Et du coup, ça demande quand même pas mal de travail de remplissage de fly case et de soulevage de matos. Et le pauvre Thibaut s'attire sur le corps et donc du coup, voilà.
C'est clairement la faute des citoyens, hein, comme le dit Bligo.
C'est la faute des citoyens.
Évidemment.
Donc on met tous les mains en l'air comme ça et on apporte de l'énergie à Thibaut, à qui on pense très fort, et qu'on embrasse. C'est ici le Let's Play Pokémon, absolument, absolument. C'est ici les 577 Pokémon les plus rares qui se réunissent chaque semaine dans un hémicycle, tu verras. Ils ont tous des spécificités particulières, ils sont pas tous de la même espèce et tout, tu verras, c'est marrant. Il y en a qui sont du type gauche, qui sont du type droite, ça y est, on commence à filer la métaphore à la con, ça peut aller très très loin. Bonjour à tous, je me mate la rediff du FFS sur Golfit ou les QAG. Bon, les QAG direct. Le FFS sur Golfit, tu regarderas plus tard. En plus, j'ai même pas gagné, donc ça sert à rien. Et bonjour à tous, bonjour à celles et à ceux qui nous rejoignent. Prochaine fois, demandez-nous de l'aide. À 150, on peut toujours filer un coup de main. Et pas que pour le climat, pour le dos de Sylvain aussi. Merci Bligou, ça fait plaisir. Merci bien. Merci bien. D'ailleurs, notre bon président nous remercie de notre engagement pour la conscience citoyenne pour le climat. Ah bon? Il ne l'a pas dit, il m'a envoyé un texto?
Peut-être qu'il nous le dira en face à face en janvier. Hein.
Ouais, bah ouais. Ouais, carrément. Salut Anzanès, merci pour ton abonnement, merci beaucoup, ça fait plaisir, merci pour ton soutien. D'ailleurs, je vous préviens, bientôt à la rentrée, les instants de discussion comme ça avec le chat, on passera en sub mode, en sub only. Il faudrait être sub à la chaîne pour pouvoir taper dans le chat. Donc Azanès, il a raison, il prend les devants. Faites comme lui. Abonnez-vous. Vous connaissez Twitch Prime? Salut Malinville. Une raison à cela. Une raison à quoi?
Au sub-mode, je pense.
Ah, au sub-mode, à ce que je viens de dire. Oui, pardon. Ouais. Ah, rapport au fait que je parle et que du coup les gens réagissent à ce que je dis. Non, c'est pas faux.
Pas toujours. Pas toujours. Faut pas s'habituer.
Moi, je passe à la télé. Hein, je suis pas habitué à ces gens sur internet qui nous parlent. Non. Les raisons, c'est qu'il faut offrir un petit plus au sub. Normal. En plus de soutenir la chaîne, en plus d'avoir le sentiment finalement extrêmement gratifiant de soutenir un projet d'intérêt public sur internet, faut que les subs ils aient un petit plus. C'est normal. Sub only, Acropolis, Célitis. Ça va toi, non seulement t'es sub, en plus t'es first, alors commence pas. Salut Clito du Ghetto, merci pour ton resub, tu as bien raison. Tu vas pouvoir continuer à parler avec moi. Évidemment, je vous rassure, le reste des émissions sera, comme d'habitude, ouverte à tous, mais on va faire des petits moments sub only, c'est bien normal.
C'est juste l'intro, hein.
C'est juste l'intro, c'est pas tous les lives d'Acropolis. En plus, il y a pire, hein. Vous savez qu'on pourrait faire sub mode pour absolument tous nos streams, hein. Ça existe maintenant sur Twitch. On peut réserver au sub la diffusion de certains streams. Mais on le fera pas. Non.
D'ailleurs, on le fait. Hein. Ceux qui sont seuls le savent.
Oui, on fait des lives nocturnes à poil.
Je suis pas sûr que ce soit le meilleur argument, ça.
Non, au fait qu'il faille sub pour s'exprimer, ce n'est qu'une forme de censure pour les non-sub kappa. Bah, tu vois, j'ai hâte qu'on soit en sub mode, comme ça, tu pourras pas l'écrire ce genre de message.
La gentrification d'Acropolis.
Terrible.
Un concept.
Est-ce qu'à un niveau de sub, on aurait une immo de tomate à balancer sur les gauchistes et les droitards? Charles Maurice, tu fais bien d'en parler. Parce que figurez-vous qu'elle ne fut pas notre stupéfaction quand nous découvrûmes. Non, en fait, il y a Twitch qui nous a envoyé un message le week-end dernier, un contact chez Twitch, pour nous avertir que les emotes d'Acropolis, une partie des emotes d'Acropolis allait devoir être supprimée par Twitch. On a appris à cette occasion qu'en fait, les emotes ne peuvent pas représenter des personnalités politiques. Voilà, c'est contraire au règlement de Twitch. Et donc du coup, il y a des emotes qui ont disparu. Vous pouvez le voir pour ceux qui sont abonnés là dans le chat d'Acropolis. Il n'y a plus d'emotes Macron, Ferrand, Mélenchon et Macron. On avait deux emotes Macron, je crois. Donc ça nous fait chier, clairement. C'est pas cool. Mais on n'a pas le choix, c'est comme ça. Et ouais, elles ont disparu. On n'y peut rien, on peut rien y faire. Donc voilà. Donc plutôt que se rouler par terre et pleurer, on va en profiter pour changer un peu les emotes et pour vous proposer de nouvelles emotes un peu plus tournées vers la réaction, justement, pour avoir des trucs. Alors on va peut-être pas mettre des tomates, non, parce qu'on n'incite pas franchement au lancer de tomates. Comment exprimer son indignité maintenant? Mais je suis bien d'accord. On peut plus exprimer son indignité. C'est très chiant. En tout cas, pas avec les emotes. Donc voilà. Donc on va changer les emotes. On va vous proposer. On est en train de voir ça avec les bénévoles, des emotes aux petits oignons. Donc voilà. Rembourser nos invitations. Le sub only, en vrai, c'est bien quand il y a trop de monde. Ouais, grave. Bah c'est, ça y est, maintenant, ça fait 4 ans qu'Acropolis existe. On peut enfin se dire qu'il y a des moments où il y a trop de monde. On va pas se plaindre. Surtout que les tomates, c'est plus de saison. En plus, vous savez que d'autres streamers ont des emotes politiques. Alors, nous, ce qu'on sait, en tout cas, c'est qu'on s'est fait report. C'est la raison pour laquelle Twitch nous a retiré nos emotes. C'est parce qu'on a été report. Il y a quelqu'un qui a report Acropolis en dénonçant le fait qu'on avait des emotes avec des hommes et des femmes politiques.
Quelqu'un qu'il n'aurait pas fallu connaître en 1940.
Ah, bah ça, oui, ça, c'est sûr. Qui nous rappelle les heures les plus sombres de notre histoire, finalement.
Exactement.
Voilà, on a été dénoncé.
Un peu comme les gens qui déchirent des livres, finalement.
Voilà, voilà, hein, des bisous, Usul. Le point Godwin cash, exactement. Donc quoi, fallait pas report, enfoiré. Donc voilà, donc ça c'est pour la nouvelle. Plus d'emotes avec des hommes et des femmes politiques. Va falloir qu'on soit un peu plus malin. Va falloir que si vous avez des idées d'emotes, n'hésitez pas à les proposer. C'est pas les proposer d'ailleurs. Allez-y. Mais encore une fois, une bonne emote, c'est une emote qui marque une réaction à ce qui est en train d'être dit sur un live. Donc c'est pour ça que GG, ça marche très bien. C'est pour ça que, ben voilà, les bonnes emotes, c'est celles qu'on utilise souvent. C'est pas juste la tête de quelqu'un, par exemple. C'est pas une bonne emote. L'emote de Mélenchon était bien parce que c'était Mélenchon qui était en train de faire. Et du coup, c'était rigolo. Tu peux faire des dessins de politique, genre des caricatures. Honnêtement, j'en sais rien. Il restera l'emote Choupa. Ouais. Oui, il restera l'emote Choupa, ouais.
Bah, en fait, les émotes sont déjà mises à jour, donc celles qui restent sont tolérées.
Ouais. Mais c'est pas pour autant qu'on va pas les supprimer, on va voir, hein. On va. Bon, pour l'instant, on a de la place pour de nouvelles emotes, du coup, puisqu'ils nous ont viré les emotes des politiques, donc on va. Donc voilà. Pourquoi pas des emotes de comédiens de films? Honnêtement, j'en sais rien. Il faut que je relise exactement les règles de Twitch, mais de toute façon, l'application des règles est discrétionnaire, hein, donc c'est pas nous qui décidons de comment ça marche ou pas. Donc voilà. Reproduisez les mêmes expressions mais avec vos tronches. Oui, mais c'est pas aussi drôle que si c'est Méluche. Quand même, Méluche. Non, mais donc on verra. On verra. Donc ça, c'était voilà, la première news, c'est Thibaut à qui on fait des gros bisous. La deuxième news, c'est qu'on a plus d'emotes avec des hommes politiques dessus. C'est quoi la troisième news?
Je suis en train de t'éclairer le visage parce qu'il paraît que t'étais trop sombre parce que Thibaut a mal fait son travail avec le dos cassé et du coup la lumière n'est pas optimisée.
C'est Thibaut qui t'a
Voilà.
dit que j'étais trop
Oui,
sombre.
il m'a envoyé un SMS pour me prévenir.
Bisous Thibaut, on te fait des gros bisous, repose-toi. Même à distance, il envoie des textos pour dire que c'est mal éclairé. Pourquoi pas une émote Usul? Faudrait qu'on lui demande, mais faudrait une tête du Jules qui réagit. Enfin, qui exprime quelque chose. Il doit y avoir une histoire de droit à l'image, donc politique et personnalité publique, ça serait strike pareil. Bah, c'est ça qui m'étonne, Charles Maurice, parce qu'en principe. Le droit à la caricature, et même le droit à l'information fait que tu as le droit du. Enfin.
Après, il faut pas oublier que Twitch c'est américain et que c'est quand même un raisonnement américain qui est appliqué
C'est vrai.
à Twitch et c'est pas la même logique.
C'est vrai. Twitch, c'est quand même une boîte à l'américaine, donc ils ont un rapport à ces questions-là qui est un peu particulier. Enfin bref. Donc voilà. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Hâte de voir les missiles se foutre sur la gueule. Salut Schultz. Ouais, carrément, on a tous hâte. C'est les questions au gouvernement qui vont commencer dans 20 minutes. On a pas mal de choses à se dire sur la préparation de l'actualité. Il s'est passé 2-3 trucs ce week-end à Paris, pour celles et ceux qui habitent près de la place d'Italie. Je crois que ça a piqué un peu des yeux.
Ça a piqué un peu des pavés aussi.
Ça a piqué un peu des pavés, oui, c'est vrai. Il y a moins de pavés sur la place d'Italie, vous avez remarqué.
Qu'est-ce que c'est chiant de
C'est
circuler en voiture là-bas,
les
hein?
réaménagements de la ville de Paris qui fait des pistes cyclables et qui vide les pavés. Une emote OK Boomer, ouais, je pense qu'on va en faire une emote OK Boomer. Voilà, deux éborgnés en plus. Oui, absolument, vous avez probablement vu ces images de répression par la police du mouvement des Gilets jaunes, en tout cas à la place d'Italie, à Paris dimanche, qui a encore une fois fait très très réagir sur les méthodes de maintien de l'ordre, et notamment une image d'un manifestant en particulier qui reçoit une grenade dans la tronche, et qui, on l'a appris hier, a perdu son œil. Donc voilà, on va sûrement en entendre parler aujourd'hui, d'autant que dans la foulée de ces événements lundi, c'était lundi ou c'était dimanche, je sais plus, que y a une vidéo du préfet de police de Paris, Didier Lallement, c'est Didier son prénom, je crois, qui a circulé. On le voit alpagué par une femme sur la place d'Italie, une femme qui, dans leur échange, lui dit qu'elle est gilet jaune, et lui répond Nous ne sommes pas dans le même camp alors, ou un truc comme ça, nous ne sommes pas dans le même camp. Ce qui a beaucoup fait réagir sur le fait qu'un préfet de police. Pas censé être dans un camp, censé être du côté de la loi, de la faire respecter. Et du coup, ça a beaucoup fait réagir. La France Insoumise a demandé la démission du préfet, ou son limogeage par le gouvernement. Ce qui est l'occasion pour moi de vous rappeler ce que c'est qu'un préfet, parce que je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde. En plus, le préfet de police, c'est un peu particulier à Paris. Mais voilà, un préfet, c'est un représentant de l'État dans les territoires. Alors une fois que j'ai dit ça, j'ai rien dit, parce que ça ne veut absolument foutrement rien dire, et tout le monde raconte ça en boucle depuis 2 jours en parlant Didier Lallement, mais ça veut rien dire. En gros, pour la faire courte, l'État, cette belle machine qu'on appelle l'État, c'est un gouvernement, des ministères, des administrations, etc. Mais c'est facile de se représenter ce que ça représente à Paris. Vous voyez, c'est le roi. À l'époque de la monarchie, c'était le roi qui était à Paris ou à Versailles. Et dans le reste des territoires, eh bien, il y avait des représentants du roi qui, sur leur territoire, avaient des pouvoirs qui, par délégation du roi, leur étaient donnés pour gérer les affaires. Mais c'était des représentants du roi qui géraient les affaires du roi dans le domaine, ou dans la région, ou dans la province, appelez ça comme vous voulez. À partir du moment où on est passé en République, ça reste le même principe, c'est-à-dire qu'il y a toujours un État central, un État, mais cet État, il est ce qu'on appelle déconcentré. Il y a des déconcentrations de l'État dans les territoires, avec un représentant à chaque fois de l'État. Il ne représente plus le roi, mais il représente toujours l'État. Et ces représentants, on appelle ça un préfet. Alors il y a toute une histoire des préfectures, Napoléon, la Révolution, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, un préfet, c'est une personne qui, dans un département, représente l'État, donc les services déconcentrés de l'État. C'est pour ça que le préfet a sous sa responsabilité la gestion de la police nationale, par opposition aux polices municipales, qui eux sont gérées par les municipalités, donc le pouvoir décentralisé. À pas confondre déconcentration et décentralisation, vous voyez le délire? Et donc le préfet, il symbolise ça. Le préfet, c'est un haut fonctionnaire qui est à la tête d'une administration au niveau départemental, la préfecture, et la préfecture s'occupe de beaucoup de choses. Vous connaissez la préfecture pour ses gestions de papier, passeport, permis de conduire, carte grise, ce genre de trucs-là. Vous connaissez la préfecture donc pour sa direction des services de police secours, de gendarmerie, voilà, mais vous le savez peut-être un peu moins. La préfecture s'occupe aussi des pompiers. La préfecture s'occupe aussi du contrôle de légalité des décisions prises par les collectivités locales. Voilà. Les préfets sont toujours choisis par le président de la République. Non, 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 non. Les préfets sont choisis. Il y a un corps national de la préfectorale, ça s'appelle la préfectorale, généralement des anciens énarques, ce genre de profil-là, qui sont désignés par le ministre de l'Intérieur. Voilà. C'est un peu, vous savez, il y a un corps de diplomates, hein, au sein du Quai d'Orsay. Les diplomates sont nommés par les différents pouvoirs. Truc très important, un préfet, et c'est justement ça que ça devient, c'est là que ça devient intéressant avec le préfet de police de Paris, c'est que un préfet ne représente pas un camp politique. C'est pas parce que l'État est dirigé par un président de la République qui est de telle étiquette politique que les préfets sont de la même étiquette que lui. Un préfet, par contre, attention, un préfet est sous l'autorité du gouvernement. Ça ne veut pas dire qu'il représente la couleur politique du gouvernement. Mais ça veut dire que le gouvernement par l'autorité de tutelle qu'il exerce, a le pouvoir sur les préfets. D'ailleurs, le préfet précédent, qui était là avant Didier Lallement, a été viré par Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur. C'est lui qui nomme les préfets et c'est lui qui les dégage s'ils font les choses pas bien. En l'occurrence, son prédécesseur, dont j'ai complètement oublié le nom, qui était avant préfet de police de Paris, a été dégagé suite aux manifestations des Gilets jaunes du 20 décembre 2018. Enfin, la fameuse manifestation en décembre dernier qui a dégénéré au haut des Champs-Élysées avec l'Arc de Triomphe qui a été saccagé. Enfin, vous vous souvenez de cet épisode-là? Et bien, à la suite de ça, il y a eu. Le ministère de l'Intérieur a décidé de couper la tête de la préfecture de police de Paris pour y nommer Didier Lallement. Et Didier Lallement, il est connu pour être, comment dire, une main de fer dans un gant de velours. Voilà. Et donc, il symbolise un peu, Didier Lallement, il symbolise un peu la modification de la doctrine de maintien de l'ordre de ce quinquennat, enfin de ce gouvernement, et cette séquence vidéo de dimanche dernier. Déjà, la méthode de maintien de l'ordre de la place d'Italie dimanche dernier, qui a beaucoup fait réagir hein, sur ce qui s'est passé place d'Italie, ça a été très violent, particulièrement violent et compliqué à organiser. Et par ailleurs, cette phrase qu'il a lâchée à une femme captée par les caméras dimanche est interprétée par beaucoup de gens comme étant la preuve que Didier Lallement défend davantage des intérêts politiques que des intérêts que l'intérêt de l'État. Donc voilà, c'était l'ancien préfet de chez nous à Bordeaux. Absolument, il était à Bordeaux avant. C'est gravissime de dire qu'il y a des camps dans une république indivisible dont l'État défend quel camp. Exactement, The Ramsayer, c'est précisément ce qui est reproché à cette déclaration de Didier Lallement. Un préfet ne représente pas un camp, un préfet représente l'État. Avec tout ce que ça représente. Salut, c'est quoi ici? Je sais pas. C'est un live Pokémon qui va pas tarder à commencer. S'il y a des camps, il y a guerre. Guerre, c'est un grand mot. En tout cas, il y a affrontement. Mais donc, effectivement, oui, c'est pas. En même temps, d'ailleurs, c'est le paradoxe de la déclaration de Didier Lallement, c'est que une partie des Gilets jaunes dénonce les forces de l'ordre comme étant eux et nous, un camp face à un autre, etc. Alors que l'idée permanente qui est défendue par le gouvernement, c'est que non, il y a la loi d'un côté, le maintien de l'ordre, et de l'autre côté, il y a le désordre. C'est l'histoire classique de comment est-ce que les gouvernants racontent l'histoire du maintien de l'ordre. Sauf que quand Didier Lallement dit on n'est pas dans le même camp, bah en fait, il renforce l'idée qu'il y a des camps. Et que du coup, la police est un camp, les gilets jaunes en sont un autre. Et voilà. Merci Alexandre pour ton resub. Je sais pas pourquoi je ne l'ai pas entendu, mais merci beaucoup.
Non, mais il n'apparaît même pas dans la liste des subs, mais.
Eh ben, écoute, il va peut-être apparaître dans pas longtemps. Le temps que ça se refresh, ça va apparaître. Je trouve que les manifestations en dehors de toute opinion politique servent un peu à rien, hormis polariser la population, faire des blessés, de la destruction. Au final, le gouvernement a juste créé du déficit supplémentaire, aucune économie sur l'État. Les 13 milliards. C'est plus que 13 milliards, c'est 17 milliards d'euros. C'est ça, non? Qu'Emmanuel Macron a accordé aux Gilets jaunes en janvier dernier. En aide diverses et variées, en augmentation de minima sociaux et tout.
Aux Français.
Oui, non, pas au gilet jaune, non, mais d'accord. T'imagines? Tu dois aller à la CAF avec un gilet jaune pour obtenir une augmentation de la prime d'activité.
Moi, c'est ce que j'ai fait à titre personnel, ça a marché.
Ça a marché?
Ouais, très bien.
T'es venu avec un pavé, t'as fait, puis filez-moi une alloc, sinon je pète tout.
Non, je l'ai dit de manière beaucoup plus élégante. Il n'y a pas besoin d'être violent comme ça. Bon, effectivement, je mets des pavés avec moi, mais. Oui, on meuble, hein, pendant que j'en bois du café, évidemment. Et avec des mugs Acropolis que vous pouvez retrouver, n'est-ce pas, sur la boutique, sur le site acropolis.fr. N'hésitez pas à aller y jeter un œil.
Je rappelle que la tasse Acropolis rend le café meilleur et augmente de 15% les chances d'avoir des swipes à droite sur Tinder. Achetez-en, abonnez-vous. À ton avis, ils vont faire quelque chose, le gouvernement, contre ce préfet? Honnêtement, je ne pense pas. Par contre, il va devoir rendre des comptes. Et c'est le principe des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale, puisque, comme vous le savez, ou peut-être pas d'ailleurs, les députés sont les supérieurs hiérarchiques du gouvernement. Le gouvernement est placé sous l'autorité de l'Assemblée nationale, sous le contrôle de l'Assemblée nationale, comme on dit. Et l'Assemblée nationale demande des comptes au gouvernement, demande aux gouvernants de bien vouloir venir présenter des comptes aux représentants du peuple qu'ils sont. Principe de la démocratie. Et donc le mardi, en direct sur Acropolis, vous avez le gouvernement qui vient se faire engueuler par les députés. C'est le principe. C'est ça les questions au gouvernement. Enfin, se faire engueuler ou pas, ça dépend des députés. Tous les députés ne sont pas d'accord les uns avec les autres. Il y en a une majorité qui soutient le gouvernement, mais il y a aussi des oppositions. Donc là, cet après-midi, ça ne m'étonnerait pas du tout qu'il y ait des députés qui posent une question à Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, sur ce qui s'est passé dimanche. Donc, ça forcera Christophe Castaner à s'expliquer, à dire... s'il soutient ou pas, on verra.
Finalement, c'est un petit peu Repassa Castaner.
Repassa Castaner, exactement. Donc voilà. Une question sur le pont. Alors effectivement, dans le reste de l'actualité... Ah oui, alors par ailleurs, j'ai oublié de vous le dire, mais samedi dernier, c'était le premier anniversaire du mouvement des Gilets jaunes. Voilà, c'est... On a parlé de la place d'Italie, on a parlé du préfet. On aurait pu aussi rappeler que ça fait quand même un an que le mouvement des Gilets jaunes existe. Et que donc, c'est peut-être un an, c'est un anniversaire, c'est peut-être l'occasion du coup de faire le point sur ce mouvement, ce qu'il a obtenu, ce qu'il n'a pas obtenu, ce qu'il dit, ce qu'il ne dit pas. Mais ça, j'ai hâte de voir vos opinions là-dessus. Il y a une manif le 23 novembre, donc le week-end prochain. Une manif qui est prévue contre les violences sexistes et sexuelles. à Paris, je crois. Non, pas qu'à Paris d'ailleurs, dans toutes les grandes villes de France. Donc, est-ce qu'il y aura une question au gouvernement sur le sujet? Peut-être. Peut-être une question à Marlène Schiappa sur le sujet, à force de voir les féminicides se succéder les uns aux autres. Peut-être que le gouvernement va être amené à devoir répondre sur ce sujet-là. Tu parlais tout à l'heure du pont. Effectivement, il y a un pont en Haute-Garonne qui s'est effondré en faisant deux victimes, dont une adolescente qui est morte. Ça pose plein de questions. Ça rappelle le pont de Gênes en Italie, mais c'est évidemment pas comparable en termes de dommages et en termes de taille de pont. Mais en tout cas, la question des infrastructures, que fait le gouvernement, que fait l'État pour entretenir les infrastructures routières, enfin tout, quoi, les ponts, les tunnels, les ports, les aéroports. Voilà, quels sont les investissements qui sont faits. Hop, je lis le chat. Attends, vous êtes où? Vous êtes là. C'est fou, un an de contestation, c'est inédit dans notre histoire. Non. Non, tu peux pas dire que ce soit inédit. C'était dimanche l'anniversaire des Gilets jaunes. Oui, non mais oui, mais la manif, c'était samedi.
Il y a eu quelques actions dimanche, mais rien à voir avec samedi, quoi.
Oui, la grosse manif, c'était samedi. Traditionnellement, les Gilets jaunes, ça a été pendant un an, ça a été le samedi, même tous les samedis. Le camion qui empruntait le pont a fait 45 tonnes. Oui, absolument, c'était trop lourd pour le pont apparemment, et donc ça pose la question de la signalétique. Mais vous savez, ça fait penser à chaque fois que... Enfin, à chaque fois, c'est horrible de dire ça, mais quand il y a un accident, un passage à niveau avec un train, à chaque fois, justement, le préfet, c'est son rôle, se retrouve à aller sur le terrain et à se dire, bordel de merde, comment c'est possible? Pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas de panneau? Est-ce que les barrières fonctionnaient bien? Du coup, le préfet fait un état des lieux avec ses équipes techniques pour savoir, ok, tous les passages à niveau dans le département, est-ce qu'ils sont aux normes? Est-ce qu'ils sont bien visibles? Est-ce que les panneaux n'ont pas été pétés avec le temps? Etc, etc, etc. Il renvoie au ministère de l'Intérieur des notes. Donc, tu as tous les préfets de France qui renvoient des notes à Paris en disant, bah, moi, dans mon département, il y a tant de passages à niveau et voilà ce qu'on a relevé comme difficulté. Et ainsi de suite. Enfin, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne, les préfectures. Et ben là, c'est pareil pour les ponts. Pour les ponts, c'est pareil. À mon avis, la préfecture d'à côté de chez vous, là aujourd'hui, elle est en train de se faire une petite réunion pour savoir au fait, nous, les ponts, il y en a combien dans le département? Est-ce qu'ils sont tous bien entretenus? C'est quoi les documents qu'on a sur le bordel? Donc vous voyez. Et donc voilà. Et comment est-ce qu'on fait pour empêcher un camion de 45 tonnes de passer par ce pont? Donc voilà. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc voilà, donc il y a l'effondrement du pont, là pareil. Une question au gouvernement, ça ne m'étonnerait pas du tout sur que fait le gouvernement pour soutenir les investissements de maintien des infrastructures routières en France. Qu'est-ce que vous prévoyez de faire? Qu'est-ce que vous proposez? Il y a sûrement des trucs qui vont être votés dans le cadre du budget. Hein. Là, le budget chaque année, il y a des sections investissement, maintien en état du... travaux de sécurité, maintien en état des normes de sécurité des infrastructures. Donc voilà. Je continue. Dans la Drôme, il y a eu des coupures de courant suite aux chutes de neige. Il y a des foyers qui ont été coupés d'électricité pendant plusieurs jours. Ce qui, sous la neige, peut être compliqué, hein, en termes de chauffage, en termes de sécurité, en termes de... Pour les personnes âgées, les personnes isolées et tout, ça peut être très dangereux. Donc voilà, là aussi, question gouvernement possible sur l'état de... Enfin, suite aux chutes de neige, qu'est-ce qui est mis en place? Il y a une grève des assistantes maternelles aujourd'hui. Ça peut valoir une question au gouvernement sur la petite enfance et sur les conditions de travail des assistantes maternelles. On parlait des manifs le week-end dernier, donc évidemment on a beaucoup parlé des Gilets jaunes. On aurait pu aussi parler de la manif des identitaires, de génération identitaire, l'extrême droite qui a défilé à Paris. Alors, c'était un tout petit défilé, il n'y avait pas grand monde dans le défilé, mais quand même, vous savez que c'est un camp qui gagne en popularité avec le temps, au fur et à mesure des années et des élections. Et il y a aussi des questions qui se sont posées sur justement le maintien d'organisation de cette manifestation-là, par miroir à celle des Gilets jaunes qui a été durement réprimée. Donc voilà, il y a un parallèle qui est fait par certains députés, donc peut-être qu'on l'entendra aujourd'hui. Et je termine avec la dernière information du jour qui est quand même assez importante. Aujourd'hui, c'est le congrès des maires de France. Enfin, en ce moment, c'est le congrès des maires de France. Alors, vous me direz, vous vous en foutez comme de l'an 40 et vous avez bien raison, c'est normal. Mais les maires, il y a quand même 36 000 communes en France. Les maires, ça ne représente pas rien. C'est des collectivités locales parmi les plus petites qui sont au cœur de mutations très importantes. Il y a des enjeux de ruralité, il y a des enjeux de renouvellement urbain, il y a des enjeux de dynamique démographique, il y a des enjeux de renouvellement du personnel politique aussi, puisque il y a un paquet de maires qui ne se représenteront pas l'année prochaine au municipal. Et le congrès des maires de France, bah, c'est un peu l'AG annuel des maires, quoi. C'est un peu le moment où on prend le pouls de l'État, des collectivités locales et notamment des mairies. Vous savez que les Français sont très attachés à leur maire, le maire devant qui on se marie, devant qui on va enregistrer les naissances des enfants, enfin bref. Indépendamment de ça, le niveau local est un niveau d'action publique très important. Et le Congrès des maires de France, c'est un moment politique assez important institutionnellement chaque année, puisque c'est l'occasion pour le président de la République et les membres du gouvernement d'aller s'exprimer devant les maires de France et de voir leur réaction. Donc Emmanuel Macron va s'adresser aux maires de France à 15h. Nous, on sera en direct de l'Assemblée nationale. Mais voilà, il n'est pas impossible qu'Emmanuel Macron se fasse un peu huer par une partie des maires, ce qui politiquement ne serait pas neutre. À un an des municipales, c'est pas rien. À un an, qu'est-ce que je dis? À 6 mois? Des municipales, c'est pas rien. Donc, à garder en tête ça aussi, hein, sur les questions au gouvernement, si on parle du local, voilà.
Même pas 6 mois, hein, ça sera mi-mars. Donc, dans 4 mois.
4 mois, putain, la vache.
Et effectivement, les élus locaux, c'est quand même, dans les mairies, c'est ceux qui sont considérés comme les plus accessibles, par opposition aux élus nationaux qu'on voit jamais et qui sont perchés.
Est-ce que vous connaissez votre maire, vous ? Est-ce que vous avez déjà rencontré votre maire
Ou vos conseillers municipaux, d'ailleurs.
Ou vos conseillers municipaux, oui, c'est vrai. On s'en fout, il se fait tout le temps huer, ça change rien. Alors oui, mais c'est pas pareil de se faire huer par des gens dans la rue et de se faire potentiellement huer par des représentants locaux. C'était François Hollande, hein, qui s'était fait un peu tabasser par quelques maires comme ça à un congrès des maires de France au moment de la loi NOTRe sur l'organisation de la République au niveau local. Donc voilà. Joseph totalement de mon maire. Bon, et ben comme ça c'est fait. Je connais juste le parti politique. Gérard Collomb, ouais, je le connais. Il vient boire le thé tous les samedis. J'espère une question sur le vol du siècle par le gouvernement avec le loto du patrimoine. Oui, on a appris ça dans le cadre du vote du budget. Il y a un micmac que j'ai pas bien compris sur 25 millions d'euros qui va être tiré au budget du patrimoine alors qu'il y a 25 millions d'euros qui ont été récoltés par le loto du patrimoine. Moi, j'ai besoin de précision là-dessus, précisément. Qu'est-ce qui était prévu, qu'est-ce qui n'était pas, qu'est-ce que vient changer le loto du patrimoine là-dedans Voilà. Les représentants, faut remonter le ras-le-bol aussi, c'est normal de se faire huer. Oui, c'est vrai, tu as raison, Mr. McKay, ça fait partie du taf, ça fait pas du taf, mais justement du mandat. Oui, effectivement, les maires sont aux premières loges du contact avec la population. Donc, quand tu as tous les maires d'un pays qui te disent c'est tendu, ça veut dire que c'est tendu, c'est pas rien, quoi. Je connais le maire, mais je peux pas le saquer. Oui, mais tu le connais. Alors que si je te demande qui est ton sénateur. Mon maire est chauve, donc bon, pas ouf. Quel enfoiré. Ce n'est pas pour rien que les maires sont les élus préférés des Français. Oui, les Français adorent le. Les Français, c'est pas compliqué. Leurs deux élus préférés, c'est le maire et le président de la République. Ils sont très, très, très attachés au maire. Voilà. Avec les copains gilets jaunes, on a été au conseil d'Aglo. Mais on a été pris qui a dénoncé les corruptions de l'agglo. Achat de terrain plus maison aux frais des contribuables pour l'adjoint. Ah ouais? Bah n'hésitez pas d'ailleurs, je le rappelle, hein, ça peut paraître anodin comme information, mais il y en a qui ne le savent pas, le conseil municipal est ouvert au public. N'hésitez pas à y aller, assister à une séance du conseil municipal, c'est intéressant. Hein. Ou du conseil régional ou départemental. Hein.
Alors pour les conseils régionaux, évitez d'y aller avec un foulard ou avec un voile, parce que ça peut être mal perçu. En tout cas, en Bourgogne-Franche-Comté, ça se passe pas toujours très bien.
En Bourgogne, faites gaffe. Ouais.
Ou alors pas avec tous les enfants, mais.
Donc voilà. Donc voilà, il est bientôt 15h, ça va être le début des questions au gouvernement. S'il y a des sujets qu'on n'a pas abordés et que vous voulez que vous auriez abordé si vous aviez été député, eh ben, n'hésitez pas à me le dire. De quoi est-ce que vous voulez que ça parle aujourd'hui? De quoi est-ce que vous voulez que le gouvernement parle, rende des comptes?
Est-ce qu'on se met un générique pendant que les réponses arrivent?
Ça dépend, t'as une image ou pas?
J'ai une image.
Eh ben, on va se mettre un générique, on se retrouve tout de suite en direct de l'Assemblée nationale. À tout. Et bienvenue à toutes celles et à tous ceux qui nous rejoignent. Oula, va falloir que tu me grandisses là par contre, je suis beaucoup trop petit. Vous êtes sur Acropolis pour la séance de questions d'actualité au gouvernement. Voilà. C'est toutes les semaines les questions comme ça. Oui, c'est tous les mardis après-midi en direct sur Acropolis à 14h30. Voilà. Peut-on applaudir dans les conseils municipaux ou intervenir en tant que visiteur? Non, a priori, non. Les visiteurs dans les conseils municipaux sont astreints. Silence, t'es dans le public, c'est comme à l'Assemblée nationale, tu vois, t'es dans le public, t'es pas là pour participer au débat.
Je sais pas dans quelle mesure les règlements internes peuvent modifier ça ou pas. Je sais pas quelle est la souplesse de chaque mairie.
Je crois que tu peux être souple, honnêtement, j'en sais rien. Est-ce que vous auriez une question à poser au gouvernement? Pas au chocolat ou chocolatine, c'est une excellente question. La précarité, c'est pas une question, ça c'est juste un mot. Tu me caches ma députée. Une députée là? 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 Lui? Lui? Avec les cheveux blancs ou les cheveux blancs? Certains maires suspendent la séance pour permettre au public de parler de temps en temps. Ah oui, c'est vrai, t'as de raison, Adrien, oui. Oui, mais ils sont obligés d'avoir recours à une suspension de séance pour ça. Une suspension temporaire, ouais. Mais c'est vrai, t'as raison, il y a des maires qui mettent en place des trucs cool pour que les citoyens puissent parler. Je crois que ça se fait beaucoup aux États-Unis, en Amérique du Nord, mais en général au Canada aussi. Le droit de pétition, le fait que des citoyens qui portent une pétition viennent physiquement en séance devant le conseil municipal ou une partie du conseil municipal pour porter une pétition et soulever un sujet. Ça me dit quelque chose. Est-ce que vous faites des choses au format podcast chez Acropolis? Salut Blopinou. Tu peux retrouver l'intégralité des émissions Questions aux sénateurs en podcast. Et tu peux retrouver l'intégralité de nos émissions en podcast aussi. Les émissions Acropolis sont toutes podcastées, mais j'aimerais bien que l'année prochaine on essaye de développer un peu des formats podcast spécifiques, parce que là c'est juste des émissions au format audio quoi, mais c'est des émissions qui sont pas particulièrement pensées pour être des podcasts. Ah, êtes-vous satisfait de notre nouveau monde politique? Eh, mais ça c'est pas une question que tu vas poser au gouvernement puisque c'est lui le nouveau monde politique, donc
votre nouveau monde politique.
Êtes-vous satisfait de votre nouveau monde politique? Bah oui, ils vont s'auto-satisfaire, oui. Bien sûr. Une question sur le million pour ADP et le refus d'avoir des spots radio. Alors, le million, il faut que tu précises, parce que c'est un million de signatures pour un référendum sur l'aéroport de Paris. C'est pas un million d'euros. Richard Ferrand qui monte à l'exécutif. Merci, Ilumdir, pour ton resub. Merci pour ton soutien. Et la séance qui va pouvoir commencer.
La séance est ouverte.
Formidable.
L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement.
Ça tombe bien.
La parole est à Madame Marie-Noëlle Battistel.
C'est à toi, Marie-Noëlle. C'est parti pour la séance de questions au gouvernement. On commence avec la première, une députée
Merci,
socialiste.
Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Paris accueille aujourd'hui les maires de France pour leur 102e congrès, le dernier avant le renouvellement des conseils municipaux de mars 2020.
Applaudissements pour les maires de France.
Le constat en cette fin de mandat est terrible et inédit. Près de la moitié des maires ont annoncé qu'ils ne se représenteraient pas. Trop peu de considération, manque de moyens, plus de responsabilités, comment ne pas les comprendre? Ma collègue Christine Pires-Bonne, très investie sur ces sujets, l'a très largement relayé, notamment lors du débat sur la loi de finances. Les élus locaux se retrouvent en première ligne, sur tous les fronts, souvent pour pallier les manquements de l'État. Transition énergétique, mobilité, organisation du grand débat, petit déjeuner dans les écoles, innombrables sont les sujets auxquels les maires doivent faire face sans moyens supplémentaires.
Merci Théo, merci
les
beaucoup.
Les Outre-mer, et j'y associe mes collègues des Outre-mer, où la situation économique et sociale est explosive, en est un autre exemple. Ces territoires, souvent oubliés, subissent une péréquation nationale très inégalitaire.
La péréquation, c'est l'égalisation des budgets des collectivités locales par l'État.
Se situant entre 85 millions et 200 millions d'euros avec les communes de l'Hexagone.
Merci Sambio.
85 millions avaient été promis par le président de la République. Finalement, ce sera 17 millions que la loi de finances prévoit, payés par les collectivités de la métropole.
Vous voyez, typiquement, ça c'est un sujet intéressant. Marie-Noëlle Battistel qui pose une question sur la péréquation avec les Outre-mer en disant, mais attendez, le président avait promis 85 millions et en fait ce sera que 17 millions. Comment ça se fait?
Auxquels s'ajoutent de nombreuses pertes de recettes. sans parler du mépris que beaucoup ressentent dans les territoires. Cette année, le président de la République a prévu de prendre la parole devant les maires. Mais ce dont ont besoin les élus locaux, ce n'est pas seulement des mots qui ne suffiront pas à calmer leurs craintes et leurs exaspérations. Il faut des actes d'amour. Monsieur le Premier ministre, le président de la République a récemment été touché.
Merci, madame la députée.
Eh oui, c'était deux minutes le temps de parole. Marie-Noël Battistel, qui est directrice d'une société de transport de voyageurs, elle est socialiste, elle est vice-présidente de la commission des affaires économiques, mais surtout, elle est rapporteur général du projet de loi de finances pour 2020. Et c'est Olivier Dussopt qui va lui répondre.
D'excuser Jacqueline Gourault et Sébastien Lecornu qui sont retenus au Congrès des maires, comme vous le devinez.
On s'en doute.
Et comme c'est logique en cette semaine. Vous avez dit, madame la députée, avec l'expérience qui est la vôtre, et vous comme moi avons été maires, et nous savons, vous et moi, que lorsque l'on a été maire une fois, on l'est finalement un peu toute sa vie.
Vous avez c'est beau.
Ce mandat 2014-2020 était un mandat difficile. Et vous savez, tout comme moi, que c'est surtout le début du mandat qui a été difficile. Début de mandat 2014-2017 avec une baisse des dotations que vous avez votée, que j'ai votée.
Olivier Dussopt, voilà, qui rappelle qu'il a voté cette baisse des dotations parce qu'il était socialiste, Olivier Dussopt. Il était socialiste avant d'être en marche, il était à côté de Marie-Noël Battistel.
Le premier axe, c'est la stabilité des dotations et la prévisibilité. Nous maintenons les dotations de l'État et de 2019 à 2020, le total des concours financiers de l'État va passer de 48,3 à 49,1 milliards d'euros. Et par ailleurs, nous avons avec les collectivités signer un contrat de confiance pour qu'en contrepartie de leurs efforts de maîtrise d'évolution des dépenses de fonctionnement, nous puissions maintenir la stabilité des dotations.
Ça, c'est les fameux contrats, c'est les contrats de territoire, c'est ça ? Que le gouvernement a mis en place, Emmanuel Macron a mis en place un système de contrats de territoire où les collectivités qui s'engagent à maîtriser leurs dépenses verront leurs dotations augmenter avec le temps dans une trajectoire qui est prévue à l'avance.
De voir remonter l'investissement des collectivités locales et nous pouvons nous en féliciter. Et puis enfin, un troisième axe, c'est la solidarité, avec une attention particulière pour les Outre-mer, mais plus que ça, avec une continuité qui est celle de faire monter en puissance la DSR et la DSU au même rythme qu'auparavant. Il y a une grande différence entre avant 2017 et après. Avant, les dotations baissent, après elles sont stables et même elles progressent un peu.
Olivier Dussopt, donc, qui rappelle que depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron, les dotations sont stabilisées et augmentent, contrairement à François Hollande. En gros, c'est ça qu'il voulait dire.
Merci, monsieur le président.
Allez, on continue.
Ma question s'adresse au ministre chargé des collectivités territoriales. Monsieur le ministre, depuis le début de cette mandature, les territoires sont au centre des problématiques auxquelles nous devons répondre. Non, les territoires théoriques des périmètres pertinents ou des organisations rationalisées. Les territoires qui s'expriment par bien des voix sont des territoires vécus, ceux de nos 35 000 communes. À juste titre, le projet de loi Engagement et Proximité dont nous débutons l'examen replace la commune au centre de notre organisation décentralisée comme une remise à l'endroit de la logique des choses. La commune n'est pas que le point d'atterrissage des politiques que nous bâtissons. Il en est le point de départ, là où se construit le sentiment d'appartenance, où se forge l'engagement citoyen, là où nous faisons société.
Regardez au-dessus,
dans ce
là.
Réajustement, l'intercommunalité doit retrouver sa place après avoir été bien souvent tenue pour responsable du sentiment d'affaiblissement communal. C'est vrai, les dernières lois ont consacré des périmètres toujours plus grands, dotés de compétences toujours plus nombreuses. C'est vrai, l'on n'a pas écouté la voix des élus de terrain qui, depuis longtemps, disent « on ne comprend plus rien, on ne sert plus à rien ». C'est vrai, on a laissé s'installer l'idée que l'intercommunalité remplacerait tôt ou tard ces communes trop nombreuses.
Alors l'intercommunalité, pour ceux qui ne le savent pas, c'est les associations de collectivités, de communes en l'occurrence, qui se mettent ensemble pour faire des trucs ensemble, et ça s'appelle une interco, qui est au-dessus des mairies et qui, en fait, sont des mairies qui se mettent d'accord sur des compétences communes.
Qui émane du besoin de solidarité et de la volonté de coopération. L'intercommunalité doit naître des communes pour les communes. Elle est indispensable à la commune comme elle est indispensable à la cohésion de nos territoires, en particulier en milieu rural. Elle offre partout des espaces de solutions sur mesure aux besoins des habitants en termes de services, d'emploi, de protection ou de mise en valeur des ressources.
Stéphane Baudu, qui est un député du MoDem, donc qui est proche du gouvernement, qui soutient le gouvernement, qui est en train de poser une question sur les collectivités locales, lui aussi, sur le congrès des maires de France. Il est, en fait, c'est intéressant parce que Stéphane Baudu, il a succédé à Jacqueline Gourault à la mairie de Chaussée-Saint-Victor. Jacqueline Gourault, qui est aujourd'hui la ministre de la cohésion des territoires, et c'est le suppléant de Marc Fesneau. Marc Fesneau, qui est assis juste là, à côté du Premier ministre, et qui est ministre des Relations avec le Parlement. On écoute à nouveau Olivier Dussopt.
L'intercommunalité est une construction désormais longue dans notre pays, qui s'est bâti dans les années 70 et 80 avec des formes libres, ensuite avec les lois Chevènement. Et elle a été structurée de manière particulière avec des seuils minimums en nombre d'habitants, à partir de la loi de réforme des collectivités territoriales présentée par le gouvernement de François Fillon en 2010, puis avec la loi NOTRe, que je connais bien pour en avoir été le rapporteur. Et d'ailleurs, cette loi NOTRe...
Olivier Dussopt, c'était le rapporteur de la loi NOTRe. La loi NOTRe, c'était la loi pour une nouvelle organisation territoriale de la République. C'était la loi territoriale de François Hollande.
Et dans les zones les moins densément peuplées. Aujourd'hui, nous savons qu'un certain nombre d'élus ont le sentiment que dans certaines intercommunalités, le périmètre serait trop grand. Il faut apporter des réponses et c'est le sens de la loi engagement et proximité que vous êtes appelé à examiner cette semaine. Des réponses sur la gouvernance, en faisant en sorte que les maires soient mieux impliqués, qu'il y ait des conseils des maires, que leur voix puisse être entendue. Des réponses sur la gouvernance aussi pour faciliter la construction de pactes majoritaires dans des conditions plus simples et qui respectent mieux la volonté des élus locaux. Des réponses sur les périmètres et sur les compétences, et notamment pour faire en sorte de faciliter des délégations ou des répartitions de compétences qui soient plus souples et qui répondent au territoire. Nous avons la conviction qu'il ne faut pas détricoter l'intercommunalité. Je crois que vous partagez cette conviction. L'intercommunalité, c'est l'espace et l'outil de coopération qui permet aux communes de répondre aux besoins des habitants et aux besoins du territoire en mutualisant les moyens nécessaires pour le faire, alors que seules, elles ne pourraient pas le faire. C'est ce qui permet d'équiper et de structurer un territoire avec des équipements sans qu'il y ait de redondance et sans qu'il y ait...
Il y a beaucoup de mots un peu particuliers quand on parle des territoires, la notion d'équipement, la notion d'intercommunalité, de périmètre et de compétences, tout ça c'est du jargon, c'est un peu compliqué à expliquer pour quelqu'un qui est totalement largué. Mais si vous tendez l'oreille, normalement, vous devriez à peu près comprendre.
Ils le seront à nouveau en 2020, comme au nouveau, de pouvoir regarder l'avenir, un, avec confiance, et deux, avec une possibilité de savoir exactement où ils vont et comment.
Merci. Si vous avez des questions, je peux essayer d'y répondre. En tout cas, Olivier Dussopt, qui continue à essayer de rassurer les députés en disant le gouvernement ne fait pas rien pour les collectivités, on avance. Hop, on écoute Sébastien Jumel.
Monsieur le Premier ministre, quand tout fout le camp, quand on a le sentiment que toutes les décisions prises s'opposent aux réalités concrètes, la commune, instance de démocratie vivante, est un pilier indispensable de la République. Le maire, c'est celui qu'on voit pour une place en crèche, défendre son école, refaire une route pour rénover des ponts, ce que l'actualité dramatique a révélé difficile. Quand la France des invisibles a éclairé le rond-point pour ne pas être l'abandonnée de la République, le président Macron a redécouvert les maires à Bourterroule en multipliant les déclarations d'amour. Alors que s'ouvre leur congrès, la réalité vous rattrape. La métropolisation, les intercommunalités XXL, les communes nouvelles continuent d'accélérer le déménagement de nos territoires et de leurs services publics de proximité. La suppression des trésoreries décidées par Darmanin illustre cela.
Gérald Darmanin, c'est le ministre du budget.
Corriger la loi NOTRe, des régions éloignées, la République déshumanisée, mais votre majorité déconnectée renonce à tenir parole sur l'eau et l'assainissement. Dans la vraie vie, les serviteurs de l'État, sur injonction de vos circulaires, refusent des schémas de cohérence territoriale et condamnent des territoires ruraux au sous-développement. En matière d'urbanisme, d'équipement public, d'attribution de subventions, ils transforment la tutelle administrative en tutelle morale et politique et peinent à convaincre qu'avec moins d'écoles, on a mieux d'écoles.
Sébastien Jumel, c'est l'ancien maire de Dieppe, en Seine-Maritime.
Pour avoir ce qui est le mieux pour leur population. La suppression de l'ATH, l'asphyxie des départements font voler en éclats le couple commune-département, pourtant essentiel à l'aménagement équilibré du territoire. Monsieur le Premier ministre...
En gros, le souci, c'est le millefeuille administratif. C'est un peu plus compliqué que ça, GM. C'est un peu plus compliqué que ça. C'est aussi la cohérence qui est mise entre tout ça et comment est-ce que l'État accompagne ou pas les collectivités dans leur développement, etc. Il y a une question qui a été posée sur combien de temps est-ce que les gens du gouvernement ont pour répondre. La réponse, c'est 2 minutes, à l'exception du Premier ministre qui, lui, n'a pas de temps, mais sinon, tout le monde n'a que 2 minutes de temps de parole. Olivier Dussopt, donc, il va répondre à nouveau à Sébastien Jumel cette fois-ci.
Je suis au regret de devoir commencer ma réponse en vous disant que la situation que vous décrivez n'est pas la réalité. Et ça n'est pas conforme à l'action de cette majorité, ni à l'action du président de la République, ni à l'action du Premier ministre. C'est cette majorité qui a mis fin à la baisse des dotations et qui maintient les dotations d'investissement. C'est cette majorité, et c'est le président de la République qui a annoncé le 25 avril que l'on ne fermerait ni hôpitaux, ni écoles, sans l'accord des maires. C'est cette majorité aussi qui a annoncé, pas plus tard que la semaine passée, la labellisation de 460 maisons de services au public, désormais Maisons France Service, avec une offre de services qui est de bon niveau. C'est aussi cette majorité qui permet, avec la loi engagement et proximité, de redonner aux maires, de leur rendre de la liberté et de la capacité à s'organiser à un niveau local. C'est enfin cette majorité qui trace un véritable contrat de confiance avec, je le répète, la stabilité des dotations.
Olivier Dussopt, il parle de majorité, il désigne évidemment la majorité des députés de La République En Marche qui soutient le gouvernement, donc c'est la majorité qui agit, selon lui, en faveur des collectivités locales, par opposition à Sébastien Jumel, qui lui est un opposant du groupe communiste, qui est opposé au gouvernement. Donc vous l'avez entendu dans sa question, Sébastien Jumel reproche beaucoup de choses au gouvernement, et le rôle d'Olivier Dussopt, là, c'est de lui répondre que le gouvernement fait beaucoup de choses dans le domaine.
Nous travaillons pour faire en sorte que le couple État-collectivité, et non pas collectivité-collectivité, mais État-collectivité puisse avancer au service de l'intérêt général. Il faut le faire dans l'ensemble des conditions que nous connaissons, il faut le faire avec le sérieux qui caractérise l'action du gouvernement, il faut le faire en respectant l'engagement du président de la République. Cet engagement, c'était celui de garantir aux élus, et notamment aux élus communaux, la visibilité, la stabilité et les moyens de leur action.
Merci.
Voilà, Olivier Dussopt qui continue sur sa lignée. Sébastien Jumel qui reprend la parole.
Vos additions ne compensent pas les soustractions. Vous voulez tuer les communes à petit feu et vous ne voulez pas l'assumer.
Merci, monsieur.
Sébastien Jumel qui n'en démord pas. Vous voulez tuer les communes.
À monsieur Richard Liogé.
Et on continue.
Merci,
avec Richard Liogé,
président, député
collègues. De La République En Marche.
Cette question s'adresse à madame Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.
Ah, il va parler de la précarité.
Madame la ministre, le geste terrible d'un étudiant qui s'est immolé par le feu le 8 novembre dernier devant le siège du Crous à Lyon, et auxquels nous pensons tous ici, a entraîné plusieurs manifestations pour dénoncer les conditions de vie des étudiants en général, dont d'ailleurs nous étions parfaitement conscients.
Richard Liogé, il est professeur à l'université.
C'est à peu près 5% des étudiants qui vivent sous le seuil de pauvreté.
Professeur en ethnologie.
Ce chiffre n'a cessé d'augmenter au cours des 15 dernières années, et le fossé entre les académies et les filières de s'élargir. Dans le même temps, l'inflation et la hausse des loyers provoquent un coût de plus en plus important chaque année. Sur les 50% des étudiants qui travaillent, 25%, c'est à noter, sont en apprentissage, mais il reste encore 25% de nos étudiants qui travaillent dans une activité sans lien avec leurs études, notamment avec les plateformes numériques, dans un statut de travailleur indépendant qui débouche sur un régime de protection sociale incomplet, où ils n'ont souvent pas de mutuelle, pas de chômage et souvent pas de congés payés. Une étude de l'Observatoire de la vie étudiant nous révèle que près de 13% des étudiants renoncent à leurs soins par manque de moyens financiers. Cette situation perdurant depuis de très nombreuses années. Ainsi, Madame la Ministre, ma question est simple. Comment le gouvernement compte-t-il agir concrètement contre les précarités étudiantes qui s'accroissent afin d'éviter demain de nouvelles inégalités et de nouveaux drames.
Richard Liogé, le député de La République En Marche, professeur d'université qui a par le passé été éducateur spécialisé en foyer, qui connaît donc très bien les situations des jeunes difficiles.
Oui, madame Frédérique Duval, oui.
Non, Vidal, pas Duval.
Vidal, pardon.
Vidal. Oh là là, il est fatigué.
Ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche.
Frédérique Vidal, la ministre, qui va devoir répondre sur la situation de la précarité des étudiants. Évidemment, c'est un sujet beaucoup plus lourd que les lapsus du président.
Là est l'essentiel. Vous avez la parole, madame la ministre.
Allez, on
avec
écoute la ministre.
Excuses. Bon, écoutez, arrêtez de vous comporter comme des potaches. Vous avez la parole.
Merci, monsieur.
Si on pouvait
président,
essayer de parler de la précarité étudiante, deux minutes, ce serait cool.
Monsieur le député Liogé, tout d'abord, permettez-moi de m'associer à l'émotion qui, j'en suis sûre, s'exprime sur tous les bancs et assurer. Cet étudiant dont la situation est encore critique, sa famille et ses proches, de tout notre soutien. Vous l'avez rappelé, la précarité étudiante qui a été mise en lumière de manière particulièrement difficile par ce drame est une réalité que nous connaissons depuis très longtemps et depuis 2 ans et demi. Le gouvernement et l'ensemble des députés de la majorité et au-delà on fait des propositions pour pouvoir lutter contre cette précarité. C'est d'abord dans la loi orientation et réussite des étudiants, la suppression de la cotisation de la sécurité sociale étudiant. C'est plus de 200 millions d'euros qui ont été pris à sa charge par l'État pour faire en sorte que les familles et les étudiants n'aient plus à débourser. C'est aussi des droits d'inscription qui non seulement n'ont pas augmenté mais ont même diminué. C'est aussi une revalorisation des bourses qui a été annoncée dès la fin de l'été à hauteur de 46 millions d'euros. Mais nous le savons, ça n'est pas suffisant. C'est pourquoi j'ai annoncé ce matin la mise en place d'un numéro d'urgence, de manière à ce que les étudiants puissent utiliser l'ensemble des aides qui leur sont consacrées. C'est chaque année presque 15 millions d'euros consacrés à ces aides d'urgence qui ne sont pas dépensées, qui ne sont pas activées par les étudiants. Alors que vous l'avez
c'est la question
rappelé,
du non-recours.
Ils sont un peu plus de 135 000 à être en situation de précarité. Seuls 50 000 étudiants demandent ces aides. C'est pourquoi, avec l'ensemble du gouvernement, avec Gabriel Attal, nous travaillons aussi à plus long terme sur la refonte complète des systèmes d'attribution sur critères sociaux et plus généralement sur le revenu universel d'autonomie. Je vous remercie.
Merci. Cédric Vidal, donc, qui a détaillé les différentes mesures mises en place par le gouvernement pour soutenir les étudiants dans la lutte contre la précarité. Elle a rappelé notamment qu'il y a un certain nombre d'aides d'urgence qui ne sont pas sollicitées par les étudiants.
Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre.
On verra s'il y aura des mesures spécifiques dans le cadre du projet de loi de finances.
Les Gilets jaunes, bien que moins présents, sont toujours dans la rue. Cet anniversaire a une fois de plus été marqué par le retour du chaos dans certains quartiers de la capitale. Les Français ont eu à supporter des images intolérables avec la destruction d'un sol dédié à la mémoire du maréchal Juin et de nos soldats. Un an après, les Français doivent subir les mêmes exactions perpétrées par des vandales, des groupuscules qui nient la République et ses valeurs, et ce, en toute impunité. Ces violences ont choqué, blessé, indigné les Français, et il n'est pas acceptable que, manifestation après manifestation, elles puissent se répéter. Que comptez-vous faire pour restaurer l'autorité de l'État, Monsieur le Premier ministre ? Allons-nous devoir continuer à supporter encore longtemps ces groupuscules qui nient la République et ses valeurs ? Les Français ont besoin que vous rétablissiez l'autorité de l'État, mais il y a aussi un deuxième engagement, un enseignement à tirer de tout cela. Les fractures sociales et territoriales qui divisent la France sont toujours là plus que jamais. Ce sont les gilets jaunes du tout début, cette majorité silencieuse, ces classes moyennes dont je me fais l'avocat, dans les quartiers périphériques, dans les petites villes, dans le monde rural.
C'est osé de se faire le porte-parole des avocats après avoir dénoncé la manifestation, les porte-parole des gilets jaunes.
Même si elles sont financées par le déficit et la dette publique, ne l'oublions pas, mais c'est un autre débat. Ces mesures, elles existent, mais elles sont loin d'être suffisantes. La France rurale et périphérique attend toujours, Monsieur le Premier ministre, des actes forts. Cette France provinciale a le sentiment d'être la grande oubliée de la technocratie qui nous gouverne en étant déconnectée de ce qui se passe réellement dans la vie quotidienne. Elle a le sentiment, cette France, que tout est concentré vers le haut. Monsieur le Premier ministre, il faut passer à la vitesse supérieure. Qu'entendez-vous faire pour répondre à ce sentiment de déclassement ? Quand mènerez-vous enfin une politique audacieuse d'aménagement du territoire ? Quand ferez-vous de l'agriculture une priorité nationale pour donner enfin à nos agriculteurs une nouvelle frontière face
Nicolas Forissier qui pose une question un peu fourre-tout. Il a commencé sur le chaos, sur le respect de l'État suite à
la
manifestation de dimanche.
Pour réduire les
ensuite, il a parlé des gilets jaunes et des territoires ruraux. Il a terminé sur l'agriculture.
Je
suis sûr que Nicolas Forissier est chef d'entreprise.
Ministre de l'Intérieur.
Et c'est Laurent Nunez qui va répondre. Alors du coup, il va parler quoi, des gilets jaunes ou de...
Monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Forissier, vous faites allusion donc à un État que vous avez décrit comme un État de chaos qui s'est produit samedi ou dimanche dernier. Je voudrais simplement vous dire que c'était l'anniversaire du mouvement des Gilets jaunes, que de nombreux appels à manifestations avaient été faits à travers tout le pays, qu'il y a eu de nombreuses manifestations qui ont réuni moins de monde, vous l'avez souligné, beaucoup moins de monde, mais qui se sont déroulées parfois dans le calme. Et puis parfois ça a été plus compliqué. Et vous avez raison de citer l'exemple parisien où plusieurs cortèges avaient été déclarés, dont certains se sont déroulés parfaitement. Puis il y en a eu un qui partait de la place d'Italie, qui était prévu pour partir à 14h et qui s'est moins bien déroulé. Parce que très rapidement, nous avons vu des individus violents arriver, vêtus de noir, avec très peu de revendications. Et si vous l'avez dit, monsieur le député, vous oubliez de saluer l'action qui a été menée, qui est la doctrine que nous mettons en place avec Christophe Castaner depuis maintenant un an, que le préfet de police a appliquée sans trembler, celle qui consiste à disloquer immédiatement les groupes violents, à intervenir, à procéder à des interpellations. Et ça, ça s'appelle la fermeté, monsieur le député. Sur ces deux jours, nous avons eu 178 personnes qui ont été placées en garde à vue. 94 d'entre elles ont été déférées.
Et bien Laurent Nunez, donc, qui se félicite de la méthode de maintien de l'ordre du préfet de police de Paris, qui vise à disloquer les groupuscules.
Et je ne doute pas un instant que nous interpellerons encore.
Et qui se félicite du nombre d'interpellations qui ont été faites.
À rappeler cela, cette doctrine que nous appliquons, qui justement vise à éviter que ce soit le chaos, qui permet de maintenir l'ordre public républicain, réactivité, rapidité dans les interventions, et bien évidemment interpellation. Et cette doctrine, nous continuerons à la mettre en œuvre chaque fois qu'il y aura des débordements. Et heureusement, il y a aussi des manifestations qui se passent sans difficulté dans ce pays, monsieur le député.
Laurent Nunez qui rappelle que cette nouvelle doctrine de maintien de l'ordre, ça fait un an qu'elle est mise en place.
Alexandra Louis.
Suite, comme je vous le disais, à ce qui s'était passé sur l'Arc de Triomphe.
Monsieur le Président.
Alexandra Louis.
Ma question s'adresse à monsieur Adrien Taquet. J'ai associé à cette question Maud Petit, avec laquelle je copréside le groupe d'études droits de l'enfant. Monsieur le ministre, l'enfant doit être notre souci. Et savez-vous pourquoi ? Savez-vous son vrai nom ? L'enfant s'appelle Avenir. Ces mots sont ceux de Victor Hugo, l'un des premiers à avoir évoqué la notion de droit de l'enfant au sein de notre Assemblée en 1850. Ce n'est que 139 années plus tard qu'a été signée la Convention internationale des droits de l'enfant, dont nous fêterons le 30e anniversaire demain. Depuis 1980,
le 20 novembre,
il ne s'agit plus de concevoir l'enfant comme un simple sujet de protection, mais bien comme un sujet de droit. Mais la ratification de cette convention n'a pas simplement marqué la fin d'une bataille, mais elle a marqué le début d'un combat. Encore aujourd'hui, les enfants sont les premières victimes des conflits armés, de la pauvreté, du travail forcé, des discours de haine, du mal logement, des inégalités de destin et des injustices sous toutes leurs formes. Le combat qui nous revient est de donner une pleine effectivité aux droits consacrés par cette convention, notamment la non-discrimination, l'intérêt supérieur de l'enfant, le droit à la vie, le respect des opinions de l'enfant sur toute question qu'il concerne. Je sais que le gouvernement, comme cette Assemblée, travaille à progresser ses droits. Je pense notamment au lancement de la commission des 100 premiers jours de l'enfant, au plan pauvreté, à la réforme de la justice pénale des mineurs et à la prise en compte des incidences des violences conjugales sur les enfants.
Alexandra Louis, qui est députée des Bouches-du-Rhône de Marseille, elle a 36 ans seulement, elle est députée depuis 2 ans, députée En Marche, elle est avocate de profession et elle pose une question sur la protection de l'enfance, enfin en tout cas sur les droits de l'enfant. Effectivement, elle l'a rappelé au début de sa question, demain le 20 novembre 2019, ce sera les 30 ans de la Convention internationale de droits de l'enfant qui a été signée le 20 novembre 1989.
Entend-il donner son plein effet à cette convention?
Et donc c'est l'occasion pour Alexandra Louis qui est, comme elle l'a dit au début de sa question, coprésidente du groupe d'études sur les droits de l'enfant.
Monsieur le Président,
et donc c'est l'occasion de parler du sujet. On écoute Adrien Taquet.
Vous avez raison de convoquer, madame la députée, l'ensemble du gouvernement, car au-delà du secrétariat d'État que j'occupe, c'est bien l'ensemble du gouvernement qui s'évertue depuis 2007 à mettre en application les recommandations du Comité des droits de l'enfant des Nations Unies de 2016. Vous avez évoqué un certain nombre de dispositions. Oui, le droit à l'éducation, quand Jean-Michel Blanquer instaure la scolarisation obligatoire.
Ils vont parler de Polanski.
Par exemple, le droit à la santé, lorsque Agnès Buzyn instaure une stratégie de prévention santé et instaure les 11 vaccins obligatoires. Le droit aux enfants en situation de handicap d'être accompagnés avec la stratégie nationale pour l'autisme ou encore l'école inclusive sur laquelle nous travaillons. Et vous savez, madame la députée, il est un droit sans lequel aucun autre droit n'est possible. Les neurosciences nous l'ont appris, les études nous le démontrent chaque jour, c'est le droit des enfants à être en sécurité, une sécurité affective mais aussi une sécurité matérielle. Nous devons faire en sorte de mieux protéger nos enfants et c'est la raison pour laquelle je présenterai demain un plan de lutte contre les violences faites aux enfants. Ce plan, il a vocation à améliorer la protection de nos enfants en tout lieu et à tout moment. Dans les institutions.
Donc il y a des questions-réponses, La République en Marche. Oui, je rappelle que La République en Marche, c'est le groupe majoritaire à l'Assemblée nationale, donc c'est normal qu'ils posent aussi des questions au gouvernement. Mais oui, ce sont des questions de la part de députés qui soutiennent le gouvernement. Et c'est le cadre. Pardon, Alexandra Louis, là, qui a posé une question, elle soutient le gouvernement. C'est pour ça que sa question n'était pas très vindicative.
Pour nos enfants.
Et il y a Mr. McKay qui demande, pendant qu'on est député, est-ce qu'on peut continuer à exercer son métier d'origine en même temps? Oui, député, ce n'est pas un métier, c'est un mandat.
Qui aime rappeler à qui veut l'entendre qu'il est la patrie des droits de l'homme. Un peuple, les Français, qui se voient comme un peuple éclairé, avancé. Eh bien, nous acceptons d'avoir près de 150 000 enfants victimes chaque année de violences sexuelles. Nous acceptons qu'un enfant puisse mourir sous les coups de ses parents tous les 5 jours. Nous acceptons. Et donc, ce que je veux vous dire par là, c'est que le gouvernement sera au rendez-vous. Nous ne pourrons résoudre cette situation que si chacun des membres de la société s'empare de ce sujet pour une meilleure protection de nos enfants.
Merci, monsieur le ministre.
Voilà, c'était la réponse d'Adrien Taquet sur la question de la protection de l'enfance. Il a dit qu'il présenterait demain un plan de lutte contre les violences faites aux enfants.
Monsieur Jérôme Lambert.
Merci, monsieur le président. Monsieur le Premier ministre, le 2 mai dernier, il y a 6 mois, vous aviez rencontré les employés de la manufacture charentaise, dont la quasi-totalité était payée au SMIC, afin de faire un bilan des mesures prises en faveur du pouvoir d'achat. Quelques jours plus tard, ici même, je vous avais interrogé pour connaître votre sentiment face aux réactions que je considérais très globalement négatives que vous aviez entendues de la part de ces salariés. 6 mois plus tard, Monsieur le Premier ministre, seriez-vous prêt à revenir devant les salariés de la manufacture charentaise ? Oui, mais il faut que je vous le dise, il y a un grave problème. Vendredi dernier, cette entreprise a été liquidée et ses 104 salariés licenciés.
Ah.
Les paroles que vous aviez prononcées lors de votre venue le 2 mai dernier résonnent encore dans ma tête. En fait, la cessation de paiement est intervenue quelques jours plus tard et les salariés n'en savaient rien, tout comme vous certainement. D'ailleurs, les salariés avaient accueilli votre présence comme un signe très encourageant pour leur entreprise.
Ça, c'est dur. Le Premier ministre, il est venu dans l'entreprise pour parler aux salariés.
18 derniers mois.
Et quelques jours plus tard, ils ont appris la cessation de paiement. Ils ont tous perdu leur boulot.
Avec cette interpellation, c'est l'énorme décalage qui trop souvent existe entre les discours, les paroles qui sont prononcées par les gouvernants et la réalité du terrain. C'est que ces beaux discours, ces belles paroles n'ont qu'un très lointain rapport avec le vécu des Français.
À propos de gouvernants, sachez que Jérôme Lambert, c'est le petit-neveu de François Mitterrand.
Rejet des responsables politiques. Parfois, le dégoût qu'il manifeste, comme depuis des mois, chaque semaine,
donc lui, il peut dire tonton.
Et sur nos ronds-points. En avez-vous seulement conscience, vous qui siégez au gouvernement ou sur les bancs de la majorité ? Que pouvez-vous dire aujourd'hui aux 104 hommes et femmes qui viennent d'être mis à la porte de leur emploi et qui vont devoir affronter les nouvelles mesures que vous avez mises en place pour bien moins indemniser le chômage ? Monsieur le Premier ministre.
Merci, monsieur le député. La parole
voilà. C'est
à monsieur Cédric.
C'était Jérôme Lambert donc, qui a posé une question sur la déconnexion entre les élites, les gouvernants et la réalité, et notamment sur la question du pouvoir d'achat.
Merci, monsieur le Président.
Et donc, c'est Cédric O, le ministre du numérique,
monsieur le député Jérôme
qui va lui répondre.
Le cas malheureux de l'entreprise LMC, dont le tribunal d'Angoulême a effectivement prononcé il y a quelques jours la liquidation. Cette entreprise, vous l'avez dit, c'est en fait 4 entreprises, 108 employés au total, qui est en cessation de paiement depuis le 25 juillet, cessation de paiement, qui est intervenue à la suite de nombreuses erreurs, vraisemblablement de gouvernance et de choix stratégiques, de stratégie économique, qui ont amené l'entreprise à perdre des marchés, à perdre de l'argent, et aujourd'hui,
on achète moins de charentaises.
Mis en liquidation judiciaire. Alors, en l'espèce, je pense que vous évoquez le rôle de l'État, et le rôle de l'État particulièrement dans ce qui concerne la politique de l'emploi et de redynamisation du tissu économique français. Je pense qu'il est de deux ordres. La première chose, en lien avec Muriel Pénicaud, c'est d'accompagner les salariés. Je peux vous assurer que l'ensemble des services de l'État, les services locaux comme les services nationaux, seront aux côtés des salariés pour aider à trouver une
ministre du numérique charentaise qui a le rapport. En fait, le rapport, c'est qu'il est au sein du il est secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie et des finances.
Un petit bouger déjà de ce côté-là, mais il faut aller bien sûr.
Donc c'est normal que ce soit lui qui réponde sur un sujet de mise en liquidation d'une entreprise. Enfin, c'est pas absurde en tout cas.
La question que vous posez, c'est la question de.
Et donc s'il tient le micro comme ça, en fait, et que ça fait du bruit et que c'est très chiant, c'est parce que les micros de l'Assemblée nationale sont tout pourris, qu'ils n'ont pas été changés depuis des années et que du coup, ils tiennent pas debout tout seuls. Donc s'il le tient pas à la main, le micro se pète la gueule. Donc l'Assemblée nationale, c'est quand tu veux pour changer le matos. Si au passage, tu peux refaire l'habillage des directs, ce serait encore mieux.
La question précisément de l'industrie et de la compétitivité des entreprises industrielles, c'est le rôle du pacte productif porté par Bruno Le Maire. Il y aura un certain nombre de propositions, de mesures qui seront faites dans les semaines et les mois qui viennent, et j'espère que nous vous aurons à cet instant à nos côtés. Je vous remercie.
Voilà, Cédric O, qui essaye de maintenir le fait que le gouvernement fait quelque chose pour la croissance.
Pierre-Yves Bournazel.
Mais bon, Pierre-Yves Bournazel, l'élu parisien.
Monsieur le ministre de l'Intérieur, le week-end dernier, Paris a de nouveau été le théâtre de scènes de violence, de dégradation du bien public et de heurts intenses entre des individus radicalisés et les forces de l'ordre. Partant de la place d'Italie, ce samedi, un an après le début du mouvement des Gilets jaunes, une manifestation autorisée devait se déployer. Je ne confonds pas les manifestants de bonne foi dont les attentes doivent être entendues et dont la situation sociale ne peut être ignorée avec des militants extrémistes qui s'inscrivent hors de notre pacte républicain. La démocratie, c'est le dialogue, et la violence le rend impossible. Ceux-ci sont venus brûler des poubelles, des voitures, agresser des pompiers en pleine intervention et dégrader odieusement le mémorial du maréchal Juin. De telles images.
Le maréchal Juin, je rappelle que c'est un héros de la résistance, non, de la libération.
Avec à la clé des vitrines brisées,
en Italie,
des
notamment.
Magasins pillés, des lieux symboliques souillés à l'image de l'Arc de Triomphe. Les Parisiens et les Français en général n'en peuvent plus de ces week-ends, ça suffit. Les Parisiens en France et en général nous le disent chaque jour. Monsieur le ministre de l'Intérieur, à la veille des mouvements sociaux annoncés à partir du 5 décembre, où les revendications doivent pouvoir s'exprimer librement dans la rue, comment assurer la sécurité des manifestants eux-mêmes et des...
Pierre-Yves Bournazel, il est député de Paris, si il est élu dans le 18e arrondissement, donc c'est pas du tout la place d'Italie, c'est plus au nord, mais peu importe. En tout cas, il se fait un peu le porte-parole des Parisiens à cette occasion-là sur la question du maintien de l'ordre.
Mettre hors d'état de nuire ces individus radicalisés.
Et donc c'est à nouveau une question à droite sur la question du maintien de l'ordre et du chaos dans Paris dimanche dernier. En tout cas, pour reprendre leurs mots, on écoute Laurent Nunez à nouveau.
Député Pierre-Yves Bournazel. Permettez-moi tout d'abord d'excuser le ministre de l'Intérieur à qui vous adressez, mais qui se trouve actuellement au Congrès, au Salon des maires, avec d'autres ministres. Monsieur le député, d'abord, vous dire que j'ai noté que vous avez salué le courage, la détermination de nos forces de l'ordre, et c'est vrai que samedi dernier, sur la place d'Italie, il aura fallu beaucoup de courage et de détermination pour mettre fin aux exactions. Et je vous remercie de leur avoir rendu hommage, au même titre d'ailleurs que vous avez rendu hommage dans votre question, aux sapeurs-pompiers, dont certains militaires de la brigade des sapeurs-pompiers de la préfecture de police de Paris ont été empêchés de se rendre sur des lieux d'incendie, ce qui est tout à fait intolérable.
Je rappelle que les pompiers
Soyez
à Paris sont militaires.
Monsieur le député, qu'à Paris comme partout en France, nous continuerons à appliquer exactement la même doctrine, celle qui consiste d'abord à encadrer des manifestations, d'abord à recevoir des déclarations de manifestation en préfecture, c'était le cas à la préfecture de police, samedi dernier, au départ place d'Italie, mais très rapidement, et bien avant l'heure prévue, des individus violents, des casseurs, sont venus commettre les exactions que vous avez citées, à la fois sur un mémorial, et puis sur du mobilier urbain, et puis s'en sont pris avec beaucoup de violence aux forces de l'ordre. Je puis vous assurer, monsieur le député, que chaque fois que ce sera le cas, nous réagirons avec la même fermeté. Je rappelais à monsieur le député Forissier le nombre d'interpellations qu'il y a eu, le nombre de dispersions qu'il y a eu, et nous procéderons de la même façon. J'ajoute, pour l'avenir bien évidemment, j'ajoute que samedi dernier, grâce à cette réactivité de nos forces de l'ordre, nous avons pu éviter des exactions bien plus graves et des dégradations bien plus graves. Et encore une fois, je veux saluer leur courage, leur détermination et vous assurer que nous poursuivrons avec la même détermination dans les semaines qui viennent, si nous le devions.
Laurent Nunez, donc, qui maintient son message de fermeté. Pierre-Yves Bournazel qui reprend la parole, du coup.
Rapidement, puisqu'il me reste 15 secondes, vous remercier de votre réponse, mais vous dire que vraiment, les Parisiens et les Français attendent qu'on mette hors d'état de nuire des casseurs, des personnes extrémistes, extrêmement dangereuses, parce que, au fond, Paris, la France, ce n'est pas ça, et il faut les empêcher
Merci,
de venir dans les manifestations.
Pierre-Yves Bournazel, donc, Isabelle qui Valentin. Maintient sa demande de plus de fermeté. Isabelle Valentin, députée
Merci,
Les Républicains.
Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. En septembre, ma collègue Josiane Courteloup a interpellé Madame la ministre des Solidarités et de la Santé sur la crise des urgences.
Oui.
La somme de 750 millions d'euros sur 3 ans n'est pas à la hauteur de la situation extrêmement tendue de nos hôpitaux. D'autant plus qu'il ne s'agissait pas de crédits nouveaux, mais de réaffectations. Les hôpitaux ne sont pas une variable d'ajustement et les Français attendent une rénovation profonde de notre système de santé. Jeudi, suite à la manifestation des personnels de santé, le président de la République a annoncé un plan d'action renforcé de l'hôpital. Vous annoncez présenter demain des décisions fortes, mais qu'en sera-t-il des moyens alloués ? Une volte-face par rapport à la version du PLFSS examinée au même moment au Sénat. Le budget de la Sécurité sociale a été construit sur la base d'un déficit de 5,4 milliards d'euros au mépris des efforts des cotisants. Monsieur le Premier ministre, comment osez-vous présenter au Parlement un PLFSS totalement caduque et insincère ? Vous portez atteinte au principe de la sincérité budgétaire.
Ah oui, c'est vrai. C'est suite aux annonces d'Emmanuel Macron.
L'intervention présidentielle perturbe le déroulement régulier de la procédure législative.
En fait, la semaine dernière, le Sénat était en train d'examiner donc ce qu'on appelle le PLFSS, qui est un acronyme très violent pour parler du budget de la Sécu, en fait, donc de l'assurance maladie.
Mais c'est du jamais vu.
Et au moment où les sénateurs étaient en train d'examiner le texte, Emmanuel Macron a fait une conférence de presse au même moment pour annoncer des mesures pour l'hôpital.
Or,
et Isabelle Valentin, donc, elle se fait la porte-parole de ses collègues sénateurs. Alors, qui est majorité à droite, je rappelle.
De nos oppositions, vous avez alerté depuis des mois.
Et qui gueule en disant que c'est un déni de procédure.
C'est la rue qui vous ramène aux réalités de terrain. Alors, monsieur le Premier ministre, qu'en est-il de ce budget rectificatif? L'ensemble des personnels hospitaliers attendent une réponse claire.
Merci, madame la députée.
Comment celui qui te la parole, c'est à qui la donner? C'est le président de l'Assemblée nationale qui donne la parole au. Alors, soit tu as la liste des orateurs de l'Assemblée nationale, donc les députés, et ensuite le gouvernement, ça dépend de qui le gouvernement envoie pour répondre.
Et je me permettrai de répondre à sa place pour vous dire tout d'abord que nous partageons bien évidemment votre souhait et le souhait des Français d'avoir une véritable réforme de notre système de soins. Le gouvernement a évidemment bien conscience que l'hôpital public est en grande difficulté, qu'il est confronté à la fois, vous l'avez, à une crise de l'investissement, mais aussi à une crise d'attractivité. Et vous savez très bien que cette situation n'a pas commencé il y a un mois, elle n'a pas commencé il y a 6 mois, pas plus qu'il y a un an, elle est le résultat d'une mise sous tension permanente depuis de nombreuses années qui pèse sur l'hôpital et qui fait peser sur l'hôpital l'essentiel de l'effort de la maîtrise des dépenses de santé. Depuis plusieurs mois, les personnels soignants expriment des difficultés et leur colère, qui est légitime, face à des conditions de travail qui se sont dégradées, qui sont devenues parfois impossibles. Dès son arrivée au ministère, Agnès Buzyn a partagé avec l'ensemble des acteurs ce diagnostic et le plan Ma Santé 2022 est le fruit de ce travaille en profondeur. Ma Santé 2022 pose les bases d'un nouveau modèle adapté aux besoins actuels de la population dans chaque territoire. La fin du numerus clausus qui va permettre...
Non, quand il parle d'attractivité, il ne parle pas de caractère business de l'hôpital. Non, il parle de l'attractivité des médecins. De santé avec une meilleure en gros, les médecins sont beaucoup mieux payés dans le privé que dans le public.
Vous savez très bien que le problème de l'hôpital se situe aussi en dehors de l'hôpital ou encore la délégation de compétences entre les professionnels médicaux et paramédicaux. Le plan enfin de refondation des urgences avec les 750 millions d'euros qui sont consacrés à la mise en place de ce pacte de refondation des urgences que vous avez évoqué, madame la députée. Ces mesures structurelles vont dans le bon sens, elles prennent du temps à se mettre en œuvre. Former un nouveau médecin, c'est 10 ans et il faut donc des mesures d'urgence et c'est tout le sens du plan d'action renforcé qui sera annoncé par le Premier ministre et par la ministre de la Santé demain. Et dont vous pouvez être assuré qu'il sera pris en considération dans les discussions qui s'ouvriront par la suite au sein de cette Assemblée.
Adrien Taquet, donc, qui rappelle tout ce que fait le gouvernement pour l'hôpital, mais qui ne répond pas sur la question du tempo qui a été souligné par la députée Isabelle Valentin. Sylvia Pinel qui prend la parole, l'ancienne ministre.
Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Permettez-moi d'avoir une pensée émue pour les victimes de l'effondrement du pont de Mirepoix-sur-Tarn et d'adresser...
Elle est élue du Tarn, Sylvia Pinel. Elle est élue du Tarn, donc c'est pas absurde du tout que ce soit elle qui pose une question sur l'effondrement de ce pont.
Les équipes de secours et souligner une fois encore leur dévouement exceptionnel et bien sûr adresser notre soutien fraternel au maire de la commune, Éric Auger.
Je rappelle que c'est elle, la loi Pinel. La loi Pinel, si vous avez entendu parler de la loi Pinel, c'est elle, la loi Pinel.
Du fait de la relation de proximité,
elle était ministre du logement.
Se trouve toujours en première ligne. Les maires et plus largement les élus locaux s'inquiètent et se sentent dépossédés. À l'acte 1 du quinquennat, fait de recentralisation, devait succéder un acte 2, celui de la concertation. Comme un symbole, le président de la République s'exprimera devant les maires cet après-midi, contrairement à l'an passé. Pourtant, certaines décisions récentes nous font douter d'un réel changement de fond. Quid de la réforme de la fiscalité locale qui rogne l'autonomie fiscale et financière des collectivités et obère celle des départements? Où est la confiance lorsque cette réforme est pavée de pièges avec le gel des valeurs locatives et la définition de 2017 comme année de référence? Où est la confiance lorsqu'en toute fin de budget, on prélève 75 millions d'euros aux départements franciliens? Alors vous allez me répondre, projet de loi, engagement et proximité. Et même si nous nous retrouvons dans certaines propositions, elles ne doivent pas occulter le principal rendez-vous de 2020, l'indispensable choc de décentralisation. Il faut pour cela rompre avec le tropisme jacobin, encore bien présent à Paris. Il faut faire confiance aux femmes et aux hommes qui gèrent avec responsabilité les collectivités. Il faut une attention particulière pour nos ruralités dans lesquelles...
Alors, il faut que je vous explique, parce que quand Sylvia Pinel parle enfin d'un tropisme jacobin, en fait, le jacobinisme, historiquement, c'est un mouvement de pensée qui est centralisateur. C'est centralisateur à Paris, l'idée que le pouvoir doit être uni et dirigé par le gouvernement, etc. Sylvia Pinel, elle plaide pour un choc de décentralisation. Donc, c'est un truc un peu plus girondin pour opposer aux jacobins. C'est faire confiance aux territoires et les laisser agir...
Monsieur le Président.
avec beaucoup plus d'autonomie. On réécoute Olivier Dussopt, qui encore une fois, je le rappelle, était socialiste avant de se mettre en marche.
Pour les victimes du pont de Mirepoix sur... de Mirepoix sur Garonne. Pas plus tard qu'il y a quelques heures, Laurent Nunez et Emmanuel Wargon étaient sur place. Nous devons faire la lumière et nous devons surtout, évidemment, penser aux victimes et à leurs familles. Vous nous avez interrogé, Madame la Ministre, sur une question en particulier. En interpellant le gouvernement, en interpellant le Premier ministre, vous nous dites est-ce que vous êtes prêt à la différenciation, est-ce que vous êtes prêt à la confiance. Non seulement nous y sommes prêts, mais nous le faisons. Je ne reprendrai pas les éléments que j'ai donnés en réponse à Madame la députée Battistel, mais la stabilité des dotations est un élément de la confiance entre l'État et les élus.
Les dotations, c'est ce que l'État donne chaque année aux collectivités comme argent pour leur permettre de fonctionner, indépendamment des impôts locaux.
Lors du congrès des maires à Epe Sauvage, un agenda rural avec près de 200 mesures qui permettent, comme aux autres, de trouver des modalités d'intervention, des modalités d'action sur le terrain qui vont nous permettre d'avancer aussi sur la construction de maisons France Service pour apporter du service public en proximité. C'est une manière de répondre à ce besoin de proximité et de différenciation. Nous allons aussi travailler avec l'ensemble des parlementaires à la question de la différenciation. Cela relève à la fois du projet de loi que prépare Jacqueline Gourault, mais aussi, vous le savez, de considérations qui sont d'ordre constitutionnel. La volonté d'être aux côtés
oui,
des
élus. Oui, la différenciation, c'est la possibilité d'avoir des lois qui s'appliquent différemment selon les territoires. C'est évidemment contraire à l'esprit d'égalité territoriale.
Elle a été mise à mal.
Donc ça nécessite peut-être de changer une partie de la Constitution, mais en gros, c'est une volonté qui a été annoncée par Emmanuel Macron assez tôt, de dire qu'en fait, il y a des règles qui doivent s'appliquer différemment aux territoires en fonction de si ce sont des territoires du littoral, des territoires montagneux, en métropole ou en outre-mer.
Les compensations ont fini dans le temps par se détricoter, ce qui ne sera pas le cas de la taxe d'habitation, parce que nous allons compenser par de la recette fiscale parfaitement stable. Pour reprendre les mots du Premier ministre, cette nouvelle grammaire du dialogue entre l'État et les collectivités locales reste encore à écrire pour être totalement achevée.
Merci,
nous y travaillons, vous y travaillerez avec nous.
La parole est à Monsieur Hugo Bernalicis.
Allez, on continue avec Hugo Bernalicis, le député de la France Insoumise.
Je vous interroge sur la réalité du droit de manifester en France.
Ah.
Quand à 14h23, la manifestation parisienne des 1 an des Gilets jaunes qui commençait 20 minutes plus tôt est interdite. Vous avez démis de ses fonctions le préfet de police Michel Delpech pour raison de mauvaise gestion d'une manifestation de Gilets jaunes. Or, ce week-end, après une gestion calamiteuse de la manifestation parisienne, le préfet Didier Lallement, lui, reste. Comment expliquez-vous ce deux poids deux mesures? Est-ce parce qu'il respecte parfaitement vos consignes, à savoir gouverner par la peur? La peur, quand on voit la vidéo de ce Gilet jaune du Nord, Manuel Timili, en train de discuter tranquillement, qui perd un œil sur un simple tir de grenade lacrymogène.
Hugo Bernalicis, le député de la France Insoumise, qui pose une question à Laurent Nunez et qui demande du coup la démission de Didier Lallement, le préfet de police de Paris. Ce qui est rigolo, c'est que Hugo Bernalicis, il est attaché à l'administration au ministère de l'Intérieur.
Je veux dire simplement, vous ne serez pas surpris que je ne partage pas votre lecture des événements. La manifestation était certes déclarée, mais pour un départ à 14h, mais très vite, des individus extrêmement violents sont venus, ont commencé à commettre des exactions, s'en prendre aux forces de l'ordre, et il était normal, légitime, permettez-moi de le dire, juste que les forces de l'ordre interviennent pour mettre un terme à ces exactions extrêmement violentes qui n'ont rien à voir avec le droit de manifester, monsieur le député. Et donc l'action de la préfecture de police était juste et légitime.
Laurent Nunez, donc, qui juge juste et légitime l'action du préfet de police de Paris dans le maintien de l'ordre place d'Italie dimanche, samedi, pardon.
Le désordre que vous avez organisé a mis en danger des policiers, des pompiers, ainsi que les manifestants qui voulaient manifester pacifiquement.
Hugo Bernalicis qui accuse le gouvernement d'avoir volontairement...
Vous assumez donc bien de maintenir ce préfet et par là même de gouverner par la peur. Vous avez nommé Didier Lallement en parfaite connaissance de sa réputation, dont la presse se faisait l'écho. Lallement, le nouveau préfet qui fait flipper les flics, celui que ses collègues de Bordeaux surnommaient le fou furieux. C'est donc à dessein que vous l'avez nommé, car il y a une adéquation entre votre doctrine de maintien de l'ordre et la réputation de ce préfet, entre les borgneurs et le fou furieux. Ce week-end, tout a été fait pour faire monter la tension et aboutir à un affrontement. La hiérarchie de la préfecture de police, sous votre responsabilité, doit assumer d'avoir organisé le désordre. Pour preuve, le parcours modifié rendant le point de départ plus dangereux à Place d'Italie avec des chantiers sur place, cette interdiction ubuesque à 14h23, ou encore ce journaliste défiguré par une grenade. Le même préfet qui applaudissait avoir matraqué le député Prud'homme a désormais dans son tableau de chasse les députés Corbière et Quatennens empêchés de quitter la manifestation. En choisissant le camp de la répression, le préfet Lallement a quitté le camp de la République. Vous devez le démettre de ses fonctions. votre volonté de dissuader les Françaises et Français de manifester le 5 décembre.
Merci, monsieur le
député. Hugo Bernalicis, le député insoumis, qui utilise des mots très très forts et qui accuse le gouvernement, via la préfecture de police, d'avoir organisé le désordre carrément, d'avoir provoqué volontairement le désordre samedi dernier. Et donc c'est à nouveau Laurent Nunez qui va lui répondre pour cette réplique à la réplique.
Monsieur le député, permettez-moi de répondre. Je tiens d'abord à vous dire que la doctrine qui est appliquée est une doctrine que nous appliquons depuis un an pour faire face à des violences qui sont terribles, qui sont maintenant devenues trop régulières. Et donc cette doctrine, c'est une doctrine de réactivité, de dispersion et d'interpellation qui a été appliquée par le préfet de police comme elle est appliquée par tous les préfets en France. Et c'est une doctrine que nous avons définie au niveau du gouvernement. Nous l'avions proposé dès le 1er décembre avec Christophe Castaner, dès après les événements du 1er décembre. Il ne s'agit pas d'empêcher l'exercice, le libre exercice du droit de manifester. D'ailleurs, samedi, ce droit a pu s'exercer partout en France quand il n'y a pas eu de violence. Et il s'exerce presque tous les jours, monsieur le député, vous le savez très bien. Et la préfecture de police, comme les préfectures, en sont les garantes.
Monsieur Ruffin, je vous rappelle au règlement et ce sera inscrit au procès verbal.
Rappel au règlement et inscription au procès verbal contre François Ruffin, ça veut dire qu'il aura une retenue sur indemnité. C'est une sanction pour les parlementaires.
Je voudrais rappeler il y a peu de temps qu'il n'existait qu'une seule communauté, la communauté nationale. Il n'existe dans ce pays, monsieur le député, qu'un seul camp qui nous réunit tous, qui réunit les forces de l'ordre, le gouvernement, les membres de la représentation nationale et tous ceux qui veulent manifester paisiblement. Ce camp, c'est le camp de la République.
Laurent Nunez qui se fait applaudir par la République En Marche, ce qui fait sortir de l'orgon les députés de la France Insoumise, vous l'aurez compris, les députés En Marche qui se lèvent pour applaudir Laurent Nunez et donc pour soutenir directement le préfet de police de Paris, Didier Lallement, pardon. Richard Ferrand qui va essayer de rappeler
Arrêtez
à l'ordre.
Arrêtez immédiatement vos hurlements.
Ouf. La tension qui monte. On rappelle qu'il y avait plusieurs députés de la France Insoumise qui étaient présents dans la manifestation samedi. Monsieur Jean-Luc Mélenchon qui se lève. La tension qui est montée d'un cran clairement dans l'hémicycle, en tout cas dans cette partie-là de l'hémicycle.
On ne peut pas passer son temps à stigmatiser la violence et donner ce spectacle de violence verbale. Sachez vous tenir.
Richard Ferrand qui s'énerve contre la France Insoumise. Hugo Bernalicis et Jean-Luc Mélenchon debout qui s'en prennent au président de l'Assemblée nationale.
Asseyez-vous immédiatement.
Alors que les députés En Marche applaudissent.
La parole est à M. Alain Perea et à lui seul.
On sent qu'il y a une tension dans l'hémicycle qui est très importante.
Ma question s'adresse à M. le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. M. le ministre, pendant près de 25 ans, j'ai travaillé avec des élus locaux, essentiellement ruraux. Et bien qu'ayant tous des profils bien différents, il faut reconnaître que les agriculteurs étaient assez souvent dans nos territoires fort représentés dans les conseils municipaux. On le sait, les agriculteurs sont des personnes très impliquées dans la démocratie locale. Or, depuis hier, nous examinons le projet de loi Engagement et Proximité porté par Monsieur le ministre Sébastien Lecornu. Je veux donc vous parler de ces élus agriculteurs. Un des trois objectifs de ce texte est de valoriser et encourager l'engagement dans la vie publique de tous nos concitoyens. Il permet un meilleur accompagnement des élus. Il veut réconcilier l'engagement politique, le mandat électif et la vie professionnelle et personnelle. C'est justement sur ce dernier point que certains d'entre nous ont été interpellés. Je veux parler des élus locaux, également exploitants agricoles, plus précisément ceux qui sont dans les zones présentant des handicaps naturels. En effet, l'éligibilité du demandeur d'aide au titre des indemnités compensatoires des handicaps naturels, les fameux ICHN, sont modulées en fonction du montant de revenus non agricoles perçus par l'agriculteur. Pour la campagne PAC 2019, une instruction technique du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation précise que seules les indemnités pour mandat au sein des organisations professionnelles agricoles ne sont pas à retenir dans les revenus non agricoles. Par défaut, les indemnités d'élus sont à prendre en compte au titre des revenus non agricoles et susceptibles ainsi de plafonner le montant de l'ICHN perçu.
Ah, c'est intéressant ça. Alors, c'est un peu technique, mais en fait, ce que dit Alain Perea, c'est qu'il y a beaucoup d'élus locaux qui sont des agriculteurs et que dans le cadre de leur mandat, ils peuvent percevoir une indemnité et que cette indemnité, elle est calculée en fonction de leurs revenus non agricoles. Et du coup, c'est une question technique, mais qui en fait est vachement importante pour ces élus locaux-là. C'est comment est-ce qu'ils peuvent. Enfin, est-ce que leurs indemnités d'élus peuvent être comptées dans ce calcul? Et apparemment, de ce que je comprends, c'est pas le cas.
La parole est à monsieur Didier Guillaume. ministre de l'Agriculture.
N'étant pas agriculteur moi-même, je vous cache pas que c'est un peu compliqué à comprendre, merci, mais j'ai cru comprendre ça entre les lignes de sa question. Et donc le ministre de l'Agriculture qui va lui répondre.
Monsieur le député, cher Alain Perea. D'abord, bravo pour le travail que vous faites comme rapporteur pour avis sur le texte qui a lieu aujourd'hui. C'est bien aussi dans un moment où il y a des tensions de féliciter les parlementaires pour l'excellent travail qu'ils accomplissent, quels que soient les bancs sur lesquels ils sont.
Ça, c'est la République en marche qui applaudit la République en marche.
C'est une question très importante. Je voudrais simplement vous dire qu'il n'y a pas eu de changement de doctrine du tout. Il n'y a pas eu une position du ministère de l'Agriculture. Mais ce que vous évoquez est essentiel. Aujourd'hui, dans les instructions sur les aides de la PAC, pour toucher les aides de la PAC, notamment dans les zones en difficulté, les ICHN, les indemnités compensatrices de handicap naturel, il faut que le revenu de l'agriculteur soit supérieur à 50% du revenu normal. C'est du revenu total, c'est normal. Mais cela dit, comme vous le dites vous-même, dans ces zones en difficulté, où il y a parfois peu d'habitants, où l'on demande que la citoyenneté s'exerce, où il faut absolument réconcilier les urbains et les ruraux, il faut que les agriculteurs, les gens de la ruralité, s'impliquent dans les conseils municipaux. Nous avons entendu ce que vous avez dit immédiatement, ce qui a été le débat qui a eu lieu au niveau de cette loi. Et le Premier ministre a demandé expressément qu'on règle la question. C'est la raison pour laquelle une instruction est actuellement signée au ministère de l'Agriculture. Et les élus qui sont agriculteurs en zone de handicap naturel ne seront plus pénalisés par le fait qu'ils ont une indemnité d'élu.
Okay.
La décision a été prise et je peux
donc
vous le
Didier
dire
Guillaume qui annonce au député Alain Perea qui l'applaudit que la décision a été prise pour répondre à cette situation dont il a parlé. Il a dit bah voilà, le Premier ministre a décidé, l'instruction est signée, ça va partir et donc c'est bon, les députés, enfin les élus agriculteurs vont pouvoir bénéficier de ça.
Comme dans les autres, l'affaire est réglée.
L'affaire est réglée. Vous voyez, un député qui soulève un sujet qui en fait part au gouvernement, le gouvernement qui dit effectivement, vous avez raison, on règle le sujet.
Merci.
Ma c'est un exemple.
Ma question s'adresse à M. le Premier ministre. L'an dernier, le président Macron ne s'est pas rendu au congrès annuel de l'Association des maires de France.
C'est vrai ça.
Cette année, les attentes sont d'autant plus fortes qu'un maire sur deux envisage de ne pas se représenter. Le désarroi des élus locaux est grand. Et nous craignons que le projet de loi engagement et proximité ne règle pas le problème. Et les maires attendent des annonces concrètes pour redonner de l'oxygène et de l'enthousiasme dans les communes. Les sénateurs ont voté la revalorisation des indemnités des maires des petites communes rurales et vous voulez faire peser cette reconnaissance légitime sur les budgets des communes sans compensation, ce n'est pas acceptable.
Attends, je comprends pas.
Les maires se dévouent 24 heures sur 24.
Les sénateurs ont voté une augmentation des indemnités des élus. Et Dino Cinerini ne comprend pas pourquoi ce serait la collectivité de payer ça.
Nous regrettons la campagne odieuse « Balance ton maire » lancée par les militants En Marche, sans parler de la publication par l'un de vos ministres de la liste des maires qui ont dû augmenter la taxe d'habitation pour compenser, je dis bien pour compenser, vos baisses de dotation. Les maires ne veulent pas de belles déclarations, ils attendent un véritable acte de décentralisation. Mais au contraire, vous imposez aux collectivités une véritable mise sous tutelle et des économies drastiques alors que le budget de l'Élysée a encore augmenté de 2 millions d'euros cette année. Monsieur le Premier ministre, quand allez-vous enfin faire confiance aux maires et traduire en acte les belles promesses que vous leur faites à l'approche des élections?
Dino Cinieri, le député Les Républicains, pardon, qui pose une question à nouveau sur la question des maires, de la décentralisation, alors qu'on est seulement à deux jours d'examen du nouveau projet de loi du gouvernement sur l'engagement dans la vie locale et la proximité de l'action publique.
Vous avez interrogé le gouvernement sur le rôle des maires, et au moment où vous posez votre question, je pensais aux difficultés que certains d'entre eux peuvent rencontrer dans l'exercice de leur mandat. Et je pense notamment à M. Harveuf, maire de Lussa, dans le Puy-de-Dôme, qui, au cours des dernières heures, a été frappé,
salut Mel,
a déposé plainte, et illustre malheureusement, et même tragiquement, le fait qu'il y a dans notre société parfois une perte de repères et l'absence de reconnaissance que l'on doit avoir pour les élus locaux. Nous avons, pour les maires, une attention particulière. Et quand je dis que nous avons une attention particulière, c'est parce que nous nous inscrivons aussi dans cette tradition républicaine qui fait que nous considérons les maires comme les piliers de la République et de la démocratie. Il faut leur donner de la stabilité. Je l'ai dit à l'occasion de différentes réponses dans cette même séance. C'est la stabilité, c'est le maintien des dotations de fonctionnement et d'investissement. C'est aussi la stabilité du cadre institutionnel pour faire en sorte qu'ils sachent exactement comment ils peuvent agir et avec quelle marge de manœuvre. Il faut leur reconnaître plus d'autorité. Et la loi engagement et proximité que vous avez rappelée est une loi qui va permettre de renforcer les pouvoirs de police, qui va leur donner aussi plus de latitude, plus de moyens.
Alors les pouvoirs de police, hein, je précise que les maires n'ont pas de pouvoir de police sur la police nationale. Ce qu'on appelle la police, c'est le maintien de l'ordre public au sens large du terme, pas seulement les flics en uniforme.
Plus largement.
Mais c'est aussi la lutte contre l'insalubrité, pour la propreté, pour la sécurité des bâtiments, etc.
Plus de protection avec la prise en charge par l'État des assurances nécessaires dans les plus petites communes. Plus de protection en veillant tout simplement à ce que l'ensemble de l'État et au-delà de l'État, l'ensemble de nos concitoyens sachent créer une forme d'union sacrée avec les maires, la représentation nationale, le gouvernement, mais au-delà, l'ensemble de la société pour leur dire, et particulièrement à la fin de ce mandat, toute notre reconnaissance.
Non, mais ça change pas. Olivier Dussopt, qui depuis le début de cette séance continue à défendre le projet de loi engagement et territoire.
Qui nous regarde attendre des actes forts, pas seulement des paroles. Le désespoir est grand dans les territoires ruraux, poussant certains au suicide. Les agressions dont ils sont de plus en plus victimes ces derniers temps sont inadmissibles. Nous serons vigilants pour rappeler vos promesses et qu'elles soient bien entendu...
Dino Cineri qui parle des maires qui nous regardent. Moi, ça m'étonnerait parce qu'il est 15h, bientôt 16h, et les maires sont en train d'écouter le président de la République, Emmanuel Macron, qui à l'heure où je vous parle est en train de parler devant le Congrès des maires de France.
C'est les dotations de 15 milliards pendant l'élection présidentielle.
Olivier Dussopt qui rappelle que les Républicains, en tout cas la candidature de François Fillon, avait proposé de baisser les dotations aux collectivités. Manière de dire, vous êtes gentil et nous donner des leçons d'augmentation des dotations. Mais quand vous faisiez la présidentielle, vous étiez pour la baisse des dotations.
S'il vous plaît.
Ça, c'est le petit tacle dans la gueule.
Vous avez la parole.
Merci, Monsieur le Président.
Allez, Isabelle Roch.
Ma question s'adresse à Monsieur le ministre des Affaires étrangères. La mission de la Commission des Affaires étrangères que j'ai conduite il y a 10 jours à l'ONU est revenue avec deux préoccupations essentielles en tête. L'importance du multilatéralisme et la situation explosive au Sahel. Sur le premier point, vous revenez de Washington, où vous avez participé à la session ministérielle de la coalition internationale contre Daesh. Si la détermination conjointe des puissances concernées reste intacte, les points d'achoppement semblent encore nombreux. Sort des prisonniers djihadistes et conditions de leur détention au regard du droit humanitaire international, quantité et surtout finalité de la présence militaire internationale dans les zones de conflit, acheminement de l'aide humanitaire sans condition de la part du régime syrien dans les zones embrasées du nord-ouest et du nord-est de la Syrie, application de la résolution 2254 du Conseil de sécurité de l'ONU, volet politique indispensable visant un processus démocratique en Syrie. Sur tous ces points, Monsieur le ministre, qui conditionnent non seulement la consolidation des succès de la coalition, mais également la prééminence du droit international, quel bilan pouvons-nous tirer du sommet de la semaine dernière ? Parallèlement, Monsieur le Premier ministre s'est exprimé hier dans le cadre du Forum international sur la paix et la sécurité en Afrique à Dakar. Et si Daesh est affaibli dans sa zone d'influence première, c'est au Sahel que l'expansion de groupes alliés se déploie, au prix d'exactions, d'actes terroristes et de déstabilisation des États. Nos interlocuteurs à l'ONU ont plusieurs fois mentionné le terme de « poudrière ». Là aussi, pouvons-nous tirer des premiers enseignements des échanges qui ont lieu à Dakar en ce moment
même ? C'est intéressant parce que c'est une question internationale, notamment sur la question du Sahel. Effectivement, il y a une prise de parole hier du président de la République sur ce sujet. Je rappelle que depuis l'intervention de la France au Mali pour lutter contre Daesh au Sahel, la France est engagée aux côtés de la coalition du G5 Sahel pour lutter contre Daesh dans la zone.
L'offensive turque dans le nord-est syrien, au mois d'octobre, 9 octobre, l'annonce par... les États-Unis d'Amérique d'un retrait de cette zone nécessitait impérativement une clarification. Je l'avais dit ici dans un débat important. En effet, il y avait un trouble sur la volonté commune de tous les membres de la coalition de poursuivre durablement le combat contre Daesh, singulièrement dans le nord-est syrien, mais aussi en Irak. Et nous sommes convaincus, toujours convaincus, que le combat contre Daesh n'est pas fini, qui n'est pas garanti par la mort d'al-Baghdadi, ni par la fin de l'emprise territoriale de Daesh, qui d'ailleurs est très récente puisqu'elle ne remonte qu'au mois de mars. Cette réunion de la coalition a eu lieu à notre demande. Elle a permis la réunion de l'ensemble des acteurs. Précisément, juste 4 ans après le drame du Bataclan. Je retiens de cette rencontre. D'abord, la volonté collective de poursuivre le combat contre Daesh dans la cohésion et dans l'unité, y compris avec nos partenariats locaux antérieurs dans le nord-est syrien. l'ensemble de la coalition.
Je croyais que c'était une question sur le
Je
Sahel.
Je retiens deuxièmement le fait que l'engagement civil et militaire de la coalition se poursuivra et les États-Unis d'Amérique ont confirmé leur présence dans le nord-est syrien pour lutter contre le terrorisme et la France continuera de son côté de jouer pleinement son rôle dans la coalition. Puis enfin, la coalition continuera à financer et à soutenir l'effort humanitaire et de stabilisation en Irak et en Syrie sans soutenir le régime syrien et sans soutenir les projets de relocalisation forcée des réfugiés. Ce sont de bonnes nouvelles, il importe de les souligner.
Le ministre.
Ouais, enfin, on marche sur des œufs. Hein,
Merci, monsieur le ministre, pour ces informations. Et dans ces combats, soyez assurés de la force et de la conviction de l'engagement d'une majorité à vos côtés.
J'aime bien le côté, parce que si j'ai bien compris, il a dit on va travailler en concert et l'ensemble de la coalition sans soutenir le régime syrien et sans soutenir les propositions de relocalisation des djihadistes en Europe.
Nos pensées vers,
bon courage.
Vont vers le jeune Anas. 10 jours après, la tragédie de son immolation alerte enfin le gouvernement sur la situation extrêmement préoccupante de nos étudiants. Mais comment notre pays, l'un des plus riches du monde, peut-il être incapable de permettre à tous les jeunes d'étudier dans de bonnes conditions? Comment notre pays peut-il être incapable de soutenir financièrement et moralement l'ensemble de ses étudiants? Le constat est terrible. 20% vivent sous le seuil de pauvreté. 24% des étudiants issus de milieux populaires ont d'importantes difficultés financières. Le revenu moyen des étudiants est de 837 euros par mois, 100 euros de moins pour ceux qui sont de famille ouvrière ou d'employés. Comment avec ça payer son loyer, ses livres, sa nourriture? Un quart des étudiants déclarent ne pas manger à leur faim. C'est une génération entière qui lance un cri d'alarme et vous demande notamment des logements crous plus nombreux, plus décents et une réévaluation des bourses. Vous répondez par quoi? Vous répondez par la mise en place d'un numéro vert. Les députés communistes proposent depuis plusieurs années du concret, une allocation d'autonomie étudiante garantissant à tous les moyens financiers pour la réussite de leurs études. Le système de bourse actuel ne répond plus aux besoins. Soit les montants sont trop faibles, soit il exclut bon nombre de jeunes issus des classes moyennes ayant pourtant besoin d'aide financière. Monsieur le Premier ministre, allez-vous enfin répondre sérieusement à cette jeunesse qui souffre et qui en appelle à la dignité, à la solidarité?
Bravo. Merci, monsieur. C'est le président du groupe GDR qui pose la question, donc le Premier ministre va lui répondre. C'est la tradition, le Premier ministre répond toujours quand la question est posée par un président de groupe.
Mesdames et messieurs les députés,
Édouard Philippe qui va donc parler de la précarité étudiante.
Je voudrais vous demander l'autorisation, monsieur le président Chassaigne, avant de répondre à votre question, de faire un rappel, je vous permets de le faire, monsieur le président, qui me semble important de la part du gouvernement, un rappel qui a tout à voir avec un usage républicain. On peut, et c'est bien naturel, et nous serons toujours prêts à l'entendre et à y répondre, critiquer le gouvernement. Dans une démocratie, le Parlement est fait pour ça. On peut, bien entendu, contester la façon dont le gouvernement a donné telle ou telle instruction pour gérer tel ou tel dossier. Encore une fois, c'est le lieu du Parlement que de questionner les ministres. Et ils ont à répondre.
Il va répondre à la France Insoumise.
Je crois, monsieur le Président, et je pense que sur tous les bancs nous en sommes d'accord, en tout cas je l'espère, mettre en cause nommément un fonctionnaire qui exerce sa mission au service de l'État.
Et voilà.
Et qui, dans cet hémicycle, ne peut pas répondre puisqu'il ne peut pas parler et qu'il ne peut pas s'y présenter.
Édouard Philippe qui défend Didier Lallemand, le préfet de police de Paris.
Ne peut pas correspondre aux exigences que nous avons à poser d'une démocratie mûre. Je le dis comme je le pense. Tel ou tel parlementaire peut parfaitement critiquer l'action du gouvernement. Mais je le dis aux parlementaires, si vous avez à mettre en cause l'action d'un fonctionnaire, alors adressez-vous au ministre de l'Intérieur ou au Premier ministre.
Édouard Philippe qui est vénère. Édouard Philippe qui est très très vénère. Il n'a pas du tout apprécié la question du gouvernement ici tout à l'heure qui a mis nommément en cause le préfet de police de Paris, Didier Lallemand.
Et je veux vous remercier, monsieur le président Chassaigne, de m'avoir permis de faire cette mise au point, mais ce rappel que je crois important et que je crois nous partageons. Alors, vous posez cette question extrêmement sérieuse.
J'ai rarement vu un Premier ministre aussi vénère.
De la précarité étudiante et du drame qui est intervenu il y a quelques jours.
Voilà, maintenant, on va parler du sujet qui a été soulevé par André Chassaigne.
En évoquant la situation actuelle, de cet étudiant. Je voudrais, comme vous l'avez fait, Monsieur le Président Chassaigne, évoquer cet étudiant en lui souhaitant, d'abord en souhaitant à cet étudiant, à sa famille, un rétablissement, si possible, complet. Mais nous savons que sa situation est difficile.
L'étudiant en question est quand même en coma artificiel. Son état de santé,
est inquiétant, c'est le moins qu'on puisse dire. Ce drame interroge, Monsieur le Président Chassaigne, il interroge sur les conditions dans lesquelles les étudiants de ce pays peuvent mener leurs études. Notre objectif, l'objectif de la nation, devrait être que les étudiants soient placés dans des conditions qui leur permettent de réussir leurs études, dans des conditions décentes qui leur permettent de réussir leurs études. À l'évidence, parce qu'ils ne travaillent pas, à l'évidence, parce que certains ne travaillent pas, d'autres travaillent, leurs revenus sont dans la moyenne largement inférieurs à d'autres catégories de la population, je pense aux actifs, je pense même aux retraités. La République, et depuis longtemps, fait beaucoup pour aider ceux des étudiants qui se trouvent dans une situation de besoin. Elle distribue des bourses. Je voudrais rappeler, Monsieur le Président Chassaigne, le montant qui est attribué pour les bourses universitaires pour l'enseignement supérieur. C'est 5,7 milliards d'euros. C'est plus, et c'est toujours intéressant de se rendre compte des ordres de grandeur, c'est plus que le budget du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Et c'est d'ailleurs un montant qui est supérieur au montant qu'on reconnaît traditionnellement dans les autres pays de l'Union européenne. C'est un effort considérable qui est actualisé. Et vous savez, Monsieur le Président Chassaigne, que dans le projet de loi de finances, à la suite des décisions qui ont été prises et proposées au Parlement, nous avons procédé à une revalorisation de ces bourses à hauteur de 46 millions d'euros. Alors je sais que certains diront 46 millions d'euros par rapport à 5,7 milliards, c'est une revalorisation qui serait trop faible. Mais ce que je veux dire, Monsieur le Président Chassaigne, c'est que nous sommes tous déterminés à accompagner ceux des étudiants qui sont dans le besoin, d'abord financièrement par le versement et le versement effectif de ces bourses, dont vous savez, et je suis certain que vous l'avez noté parce que vous êtes attentif à ce sujet, qu'elles sont désormais versées beaucoup plus tôt dans le mois, ce qui, pratiquement, concrètement, pour les étudiants qui en bénéficient, est une avancée majeure. Dans le même sens, Monsieur le Président Chassaigne, il n'a pas pu vous échapper que le Parlement avait pris la décision de faire en sorte que les étudiants, lorsqu'ils s'inscrivent à l'université, n'aient plus à acquitter la cotisation de sécurité sociale qu'ils devaient jusqu'à présent.
Ouais, les étudiants sont rattachés au régime général de la sécurité sociale. Édouard Philippe qui dit que la France dépense plus d'argent dans les bourses
au global représente
que les autres pays européens.
100 millions d'euros de la nation à destination des étudiants
possible, hein.
Pour que là encore leur niveau de vie, là encore leur capacité à étudier dans de bonnes conditions et avec une santé qui soit suivie, et nous savons que c'est un sujet, puisse être effectué là encore dans de bonnes conditions. Bien sûr, d'autres questions en termes de précarité se posent, en termes de précarité étudiante. L'accès aux droits, car les dispositifs existent, et ils sont parfois sous-employés, sous-utilisés. L'accès aux droits, l'accès à la bonne information pour l'étudiant est un enjeu majeur. C'est un exercice qui revient évidemment aux associations, qui revient aux universités, aux établissements d'enseignement supérieur, au gouvernement, mais nous pouvons améliorer l'accès aux droits, c'est-à-dire la connaissance effective par les étudiants des dispositifs dont ils peuvent bénéficier et dont nous savons que, année après année, ils sont sous-utilisés. Là encore, nous pouvons faire mieux, là encore, nous allons faire mieux. Un dernier mot, Monsieur le Président Chassaigne, pour dire qu'il y a une chose dont je suis absolument certain, c'est que la question de la précarité étudiante et le drame terrible que vous avez mentionné ne peuvent en rien justifier des réactions de violence. J'ai vu, et vous l'avez peut-être vu aussi, Monsieur le Président Chassaigne, qu'il y a quelques jours, à Caen, le Crous, ou plus exactement, le hall d'entrée du Crous, a été incendié. En quoi, Monsieur le Président Chassaigne, je pense que nous partageons ce point de vue, en quoi cet incendie ou ce début d'incendie criminel peut-il aider en quoi que ce soit la situation des étudiants dans la précarité ? En rien, évidemment. En quoi, Monsieur le Président Chassaigne, le fait que des individus encagoulés forcent la porte d'un ministère ou tel établissement peut-il aider les étudiants qui se trouvent dans des situations de précarité? Évidemment, en rien. Nous voulons travailler, travailler intelligemment avec les établissements d'enseignement supérieur, travailler au bénéfice des étudiants qui sont la richesse de notre pays demain, mais nous voulons le faire sérieusement, avec des chiffres, sans violence et dans le débat républicain. Et je vous remercie de m'avoir posé la question, Monsieur le Président.
N'empêche qu'Édouard Philippe a quand même pas mal ramé pour essayer d'expliquer ce que fait le gouvernement pour justement donner des conditions décentes d'études pour la réussite des étudiants. Il a reconnu lui-même que c'était galère.
Ma question s'adresse à
Monsieur le Président. La preuve, le résultat n'y est pas, quoi.
La scolarisation des enfants vivant avec un handicap à l'école de la République est un enjeu fondamental et nous souscrivons à ce principe de l'école inclusive pour tous. À cet effet, le Code de l'éducation définit les contours du projet personnalisé de scolarisation devant être élaboré par les maisons départementales des personnes handicapées. Ce PPS définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap. Ce même code précise la compensation et la composition des équipes pluridisciplinaires d'évaluation et y impose la présence d'un enseignant. Or, faute d'enseignants en nombre suffisant, un grand nombre de demandes explicites de parcours de scolarisation sont en attente d'évaluation, mettant à mal ce beau principe de scolarité pour tous. J'en veux pour preuve la situation de la MDPH du Nord, plus grande MDPH de
la
France.
La MDPH, c'est la maison départementale des personnes handicapées. En fait, que dit Paul Christophe, c'est que pour pouvoir avoir un parcours scolaire adapté au handicap, il faut qu'il y ait une évaluation du dossier de l'enfant, mais qu'en fait, il n'y a pas assez de gens pour examiner les dossiers. Du coup, les enfants sont en attente, bêtement,
en revanche,
de la validation de leur dossier.
11 postes mis à disposition par l'Éducation nationale en 2006, elle en comptabilise toujours 11. Ce sont donc plus de 4400 demandes explicites de parcours de scolarisation qui sont en attente d'évaluation.
4000 ?
Dans des proportions tout à fait égales aux évolutions citées, ce seraient 16 postes d'enseignants supplémentaires qu'il faudrait à la MDPH du Nord.
Vache !
Malgré les sollicitations adressées au directeur académique, il n'y a aucun retour positif pour renforcer les équipes pluridisciplinaires et ainsi éviter l'accroissement des délais et le retard dans l'attribution des compensations nécessaires à l'inclusion de nos jeunes élèves. Alors que ce contexte se répète sur le territoire national, Monsieur le Ministre, quels moyens entendez-vous mettre en œuvre pour corriger cette situation pénalisante pour les besoins et aspirations des élèves en situation de handicap? Je vous remercie.
Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Gabriel Attal.
Paul Christophe, député du Nord.
Nationale et, de la jeunesse.
Et c'est Gabriel Attal
Merci,
qui va lui répondre.
Monsieur le président, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Paul Christophe, je vous prie d'abord d'excuser l'absence de Jean-Michel Blanquer qui est en ce moment même au congrès des maires et qui va échanger avec les maires sur la question de l'école d'une manière générale et évidemment sur cette question de l'école inclusive dont nous savons qu'elle est absolument centrale dans tous les territoires.
En fait, il y a tout le gouvernement. Qui est au congrès des maires.
Très régulièrement
il n'y a que le ministre des Affaires étrangères qui n'a rien à foutre là-bas.
Parce que permettre à tous les enfants, par-delà leurs différences, par-delà leur situation, d'accéder à l'école de la République, c'est tout simplement faire vivre la République. Et nous avons à ce niveau-là une ardente obligation de résultats et de réussite. C'est la raison pour laquelle nous avons fait le choix, en cette rentrée 2019, de mettre en place un véritable service public de l'école inclusive. Et derrière ces mots, il y a non seulement une ambition, mais il y a des moyens qui sont mis en avant, qui sont mis sur le terrain. Et Sophie Cluzel et Jean-Michel Blanquer ont réuni il y a quelques semaines, au début du mois de novembre, le comité de suivi de l'école inclusive, qui a pu montrer tous les progrès qui ont été accomplis, puisque nous avons accueilli en cette rentrée 40 000 élèves en situation de handicap de plus qu'il y a 2 ans. Nous avons recruté davantage d'accompagnants, nous avons doté de contrats beaucoup plus stables, mieux rémunérés sur plusieurs années pour éviter la précarisation. Évidemment, et vous l'avez dit, il y a davantage de demandes. Et il faut mettre les moyens aussi pour traiter ces demandes. Vous avez exemple très concret des plans personnalisés de scolarisation gérés par les MDPH avec des enseignants mis à disposition dans ces MDPH. Vous avez cité l'exemple de la MDPH du Nord. Des informations que je viens de recevoir juste avant votre question des services académiques, ils ont été renforcés de 2 ETP, donc passés de 11 à 13 il y a quelques...
Les ETP, ce sont les équivalents temps plein, dont Gabriel Attal
vous demandez comment
qui vient d'annoncer qu'il y a 2 ETP supplémentaires sur les 16 demandés.
Ces demandes vont évidemment continuer à augmenter. D'abord en continuant à renforcer les moyens. Il y a dans le Nord 97 enseignants référents handicap en plus de ces 11. Et puis en simplifiant la gestion et procédure par les MDPH. Et là-dessus, des annonces seront faites dès janvier 2020. Vous le voyez, nous avançons sur ces questions-là avec Sophie Cluzel et Jean-Michel Blanquer.
Gabriel Attal qui dit que le gouvernement est mobilisé sur la question et qu'il va avancer.
Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre,
bon courage.
Après le terrible événement de la semaine dernière au Teil, ce sont 330 000 foyers en Rhône-Alpes, dont près de 60 000 Nord-Ardéchois, qui se sont couchés jeudi soir sans électricité, sans chauffage,
voilà. On en parlait de la neige, la neige dans la Drôme.
Isolés, malgré les efforts durant
il y en a parmi vous d'ailleurs qui sont dans la Drôme.
D'Enedis pour établir les lignes. Nous sommes en 2019 en France.
Et si c'est le cas, ça va pas trop froid.
Puissance mondiale, ce constat est alarmant. Il a donc fallu tout le dévouement et l'engagement des maires de nos communes, des équipes municipales, des employés communaux, des pompiers, des gendarmes, pour limiter les situations dramatiques. Et je veux ici, au nom de mon groupe, les remercier de leur présence sans faille auprès de leurs administrés, prouvant, s'il en est besoin, qu'ils sont un maillon essentiel de notre pacte républicain. C'est bien autour d'eux et de leurs initiatives que s'est mise en place l'entraide formidable qui donne à nos territoires ruraux sa richesse. Et cela mérite mieux, que câlinothérapie quelques mois avant les élections municipales. Ce matin encore, beaucoup se sont réveillés dans la même situation, conséquence certes d'un épisode neigeux particulièrement dévastateur, mais qui pose de nouveau des questions essentielles quant à la maintenance de notre réseau électrique et aux investissements qui doivent être faits. L'enfouissement des lignes est depuis de nombreuses années une problématique stratégique pour les gestionnaires de réseau. La France, avec un réseau relativement ancien, accuse un retard sur ses voies.
Vous savez, l'enfouissement des lignes, c'est le fait que les lignes électriques, plutôt que d'être en haut de poteaux en bois, elles soient mises dans la terre. Ça coûte vachement cher, mais par contre, il y a moins de dangers de coupure de courant.
Il faut mettre en rapport avec l'allongement de durée de vie de ces installations, de la sécurité qu'elles apportent, et bien sûr du respect des missions de service public qui incombent à Enedis, engagement qui doit être aussi celui de l'État, actionnaire largement majoritaire au sein d'EDF. Mais il vous revient, parce que vous êtes le garant de l'intérêt général, de veiller à ce que les engagements d'Enedis soient tenus et de développer une stratégie.
Enedis, c'est l'entreprise qui gère l'équipement électrique.
Il est de la responsabilité de votre gouvernement de piloter une politique de l'énergie satisfaisante et équitable pour les territoires.
Michel Victory, donc député de l'Ardèche, socialiste, qui donc pose la question après les fortes précipitations qui ont privé 20 000 foyers d'électricité, c'est énorme.
Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs.
La ministre Elisabeth Borne va lui répondre. Que fait le gouvernement ?
Je voudrais d'abord m'associer à l'hommage que vous avez rendu à tous ceux qui sont intervenus pour porter assistance et pour rétablir les réseaux qui avaient été affectés par un épisode de neige dont il faut bien dire qu'il a été exceptionnel. Donc, de fait, il a eu un impact important sur notre réseau de distribution avec de nombreuses chutes de poteaux et des coupures de lignes. Moi, j'entends les interrogations sur la nécessité d'enfouir davantage nos lignes électriques. Donc, vous le savez, les caractéristiques des réseaux sont encadrées de façon réglementaire pour assurer un approvisionnement électrique dans les meilleures conditions. Mais je le redis, l'épisode de la semaine dernière était exceptionnel. Donc, en effet, au plus fort de la crise, ce sont plus de 330 000 foyers qui ont été privés d'électricité. L'enfouissement, c'est clairement une façon de rendre notre réseau de distribution plus résilient face à ces conditions météorologiques. Mais cette mise en souterrain n'est pas toujours possible, notamment en fonction de la localisation, de la géographie ou de l'âge des lignes.
Il y a Sylvain qui fait remarquer qu'il y a de l'huile de palme dans les KitKat. Bon bref, ça n'a rien à voir avec ce que dit Elisabeth Borne sur le fait qu'enfouir des lignes électriques, ça coûte super cher, putain.
Pour moderniser et pour sécuriser son réseau. Et ce sont 18 000 km de lignes qui sont enterrées chaque année. Mais je rappelle aussi que ces coûts, ils sont supportés par tous les consommateurs et qu'ils représentent 30% de la facture d'électricité. Je souligne que 50% de notre réseau est aujourd'hui enterré, 40% en Ardèche, avec 600 km de plus entre 2015 et 2018. Et puis, au-delà, 370 millions d'euros pour accompagner les syndicats d'électricité avec des subventions de l'État. Donc moi, j'entends les attentes, mais je peux vous assurer que les opérateurs sont mobilisés pour rendre notre réseau.
En gros, ce que répond Elisabeth Borne, c'est que oui, effectivement, c'est chiant cet épisode neigeux et le fait que les gens soient coupés d'électricité. Oui, ce serait bien si on pouvait enfouir les lignes. Sauf que ça veut dire qu'il faut faire payer les gens plus cher. Parce que c'est nous qui achetons l'électricité qui, du coup, payons les investissements d'enfouissement.
Ma question s'adresse à M. le ministre de l'Éducation nationale et j'y associe ma collègue Maud Petit. Monsieur le ministre, plus de 20 ans après ce que l'on a appelé le scandale de l'amiante et l'interdiction de cette fibre mortifère, nombreux sont les bâtiments qui, encore aujourd'hui, renferment ce mal insidieux qui s'introduit dans les poumons de ceux qui la respirent. Mal insidieux car les premiers symptômes du cancer n'apparaissent que des années, voire des dizaines d'années après l'exposition. En juin 2019, Santé publique France a dévoilé un rapport revenant sur 20 années de surveillance. Rapport qui confirme malheureusement que l'exposition à l'amiante demeure et demeurera, encore pendant plusieurs décennies, un sujet majeur de santé publique, nécessitant le maintien de la surveillance et le renforcement des actions de prévention. Or, bien souvent, il n'existe aucun diagnostic pour s'assurer qu'une école ne contient pas ou plus d'amiante. Pour exemple, sur plus de 600 établissements à Paris, il n'y a aucune donnée sur la présence d'amiante ou non pour 70% d'entre eux. Si cette crainte pèse sur les écoles parisiennes, elle pèse également sur l'ensemble des établissements scolaires à travers la France. Face à cette indifférence et à ce silence, nombreux sont les parents inquiets qui réclament des informations que personne ne peut leur donner.
Ah bah je te garantis, quand ton gosse est dans une école où il y a de l'amiante, t'es pas serein. Aude Luquet, elle est députée de Seine-et-Marne, elle vient de Melun, et elle est candidate au municipal à Melun. Moi, j'étais sûr qu'elle allait parler des collectivités locales. Mais non, elle parle de l'amiante.
Je voudrais savoir, monsieur le ministre, où en est la mise en place de cette cellule. Avez-vous un calendrier précis ? De quels moyens financiers et humains sera-t-elle dotée ? Pouvez-vous garantir à nos enfants que dans 10, 20, 30 ans, ils ne seront pas...
Qu'est-ce que c'est que l'amiante ? L'amiante, c'est un ancien matériau d'isolation qui a un problème, c'est qu'il génère des fibres d'amiante qui se mettent dans les poumons et qui déclenchent des cancers. Ça a donné naissance à un véritable scandale de l'amiante.
Merci, monsieur le Président, mesdames et messieurs.
Qui est encore aujourd'hui un énorme problème.
Aude Luquet, vous l'avez dit, l'amiante est un mal insidieux qui est combattu et doit continuer à être combattu avec la plus grande détermination des pouvoirs publics pour protéger l'intégralité de notre population et évidemment singulièrement les plus jeunes d'entre nous. Sur ce sujet, il y a aujourd'hui des obligations de recensement et des obligations de transparence. Et c'est heureux puisque vous l'avez dit, encore beaucoup de Français sont inquiets et nous savons que, en l'absence de transparence, c'est aussi des inquiétudes qui peuvent être relayées, c'est aussi parfois des fausses informations qui peuvent être relayées, c'est aussi parfois des théories qui peuvent être relayées et faire peur à beaucoup de nos concitoyens. Donc, transparence est évidemment particulièrement importante. Aujourd'hui, un dossier doit être tenu à la disposition de tous les occupants d'un établissement scolaire. Chaque école ou établissement peut consulter son dossier technique amiante. Mais ces données aujourd'hui ne sont pas centralisées et ne permettent pas d'avoir une vision nationale. Et c'est en ce sens que Jean-Michel Blanquer s'était effectivement engagé devant vous et devant la représentation nationale en octobre 2018 à mettre en place une cellule spécifique au bâti scolaire en centrale au ministère de l'Éducation nationale.
Oui, effectivement. L'amiante, c'est un véritable fléau et pendant des décennies, ça a été un matériau hyper utilisé dans toutes les constructions partout.
Cette cellule a été mise
et aujourd'hui, c'est un vrai scandale. Alors, le scandale sanitaire, il vient du fait que, entre le moment où on a su que c'était cancérigène et le moment où on a commencé à agir, il s'est passé beaucoup trop de temps.
D'Île-de-France.
Donc, ça a été un scandale sanitaire. Mais indépendamment de ça, effectivement, il y a des bilans amiantes qu'il faut faire dans tous les bâtiments.
Vous m'avez interrogé sur les moyens dont dispose cette cellule. Je peux vous annoncer qu'elle dispose de 6 équivalents temps plein, mais évidemment s'appuie sur des référents partout sur le territoire, dans toutes les académies, pour faire le relais, faire remonter les informations. Et qu'un premier point d'étape sera publié dans les prochains mois et permettra d'avancer et de répondre aux inquiétudes qui sont relevées sur cet enjeu que vous avez évoqué.
Voilà, donc Gabriel Attal qui dit que, pour ce qui concerne les écoles, on est mobilisé, mais
vous avez indiqué, monsieur le ministre, qu'il y aurait un point d'étape dans les mois qui viennent. Je pense qu'il y a nécessité à ce que ce calendrier soit un peu plus précis, parce que l'année dernière, on nous avait annoncé un certain nombre d'éléments, notamment la création de cette cellule du bâti scolaire, et qu'il a fallu plus d'un an pour que ce soit une réalité. Donc, je pense que tout le monde a besoin de transparence et d'éléments précis. Je vous remercie.
Aude Luquet, du groupe Modem, qui soutient la majorité, mais qui quand même aimerait bien que la majorité, elle soit un peu plus précise dans ses annonces, parce que 6 mois, ça veut rien dire. On pourrait savoir à quelle date. Bénédicte Taurine, la France Insoumise.
Nous venons d'apprendre que nous disparaîtrons l'année prochaine. Ces mots sont ceux de Lies Loufoque, suite à l'annonce de la possible disparition du Conseil national de la protection de l'enfance, dont il est membre. Ce conseil avait été créé en 2016 par Laurence Rossignol, alors ministre des Familles, de l'Enfance et des Droits des Femmes, puisqu'à cette époque-là, il y avait un ministère du Droit des Femmes et non un simple secrétariat d'État, comme c'est le cas aujourd'hui.
Ça c'est un tacle pour
Marlène Schiappa. Les plus fragiles, comme l'indique Michel Créoff, sa vice-présidente, qui quitte ses fonctions le 26 novembre prochain. Les postes de vice-présidente et de secrétaire général ne seront pas renouvelés en 2020. Triste ironie, à la veille de la journée mondiale de la Convention des droits de l'enfant, texte qui pour la première fois introduit le concept qu'un enfant est sujet de droit. Parmi les principes intangibles de la Convention sont actés l'égalité entre les enfants et l'intérêt supérieur de l'enfant. Or, la politique que vous menez en la matière piétine ces principes. Le manque d'effectifs, de compétences dans les institutions, d'harmonisation des dispositifs au niveau national. Aujourd'hui, il y a 101 départements, et bien il y a 101 politiques de protection de l'enfance, ont des conséquences dramatiques. Enfants maltraités, ballottés entre les différentes solutions de placement, etc. Parlons aussi de la sortie du dispositif de l'aide sociale à l'enfance. Bon nombre des enfants passés par ce dispositif vivent dans une grande précarité. Nombreux sont peu diplômés. Et que dire des 40% d'entre eux qui seront SDF ? Monsieur le Premier ministre, allez-vous acter la fermeture du Conseil national de la protection de l'enfance ? Allez-vous poursuivre la réforme de la justice engagée par votre ministre et qui axe son action sur la répression des mineurs tout en réduisant les moyens d'action
question de la justice. Nous sommes dans le pays d'Europe qui incarcère et enferme le plus d'enfants.
Bénédicte Taurine, la députée insoumise, qui pose une question sur la protection de l'enfance à la veille justement de l'anniversaire de la Déclaration internationale des droits de l'enfant. Une question beaucoup moins conciliante que la question qu'on avait entendue tout à l'heure de la part d'une députée En Marche. Je précise que Bénédicte Taurine, elle est prof d'SVT. Et donc elle demande où sont les moyens.
Président, mesdames et messieurs les députés, madame.
Et pourquoi est-ce que le gouvernement supprime
nous avons dans notre pays
le Conseil national de la petite enfance, c'est ça, de la protection de l'enfance,
pardon. Aux écrans. C'est un problème de santé publique. Et quand je vous écoute, je me dis que nous avons également un problème probablement d'exposition des adultes aux écrans.
Qu'est-ce qu'il raconte ?
Et c'est un problème de santé démocratique. Il ne faut pas croire, madame la députée, tout ce qu'il y a écrit sur les réseaux sociaux. La fermeture du CNPE.
Adrien Taquet, il la prend un peu pour une conne, là, quand même.
Excusez-moi, monsieur le président, c'est une fausse information. C'est au contraire tout l'inverse. C'est au contraire tout l'inverse que le gouvernement souhaite faire.
Fake news.
Nous voulons au contraire renforcer la gouvernance et le pilotage de la protection de l'enfance. Ce constat est partagé par l'ensemble des acteurs. Il y a un défaut aujourd'hui
de
la protection de l'enfance. C'est la raison pour laquelle nous allons élargir les compétences et les champs d'intervention de cette gouvernance de la protection de l'enfance. Nous allons raccrocher la question de l'adoption, dont vous savez que c'est un champ ancré dans la protection de l'enfance. Vous savez, le constat partagé par tous, c'est qu'il y a énormément d'instances aujourd'hui qui s'occupent de protection de l'enfance, mais tout le monde s'accorde à dire qu'il y a un défaut de pilotage, vous l'avez souligné vous-même. Nous allons donc élargir les compétences de cette gouvernance. Nous allons en renforcer les missions. Nous allons donner un quasi-pouvoir normatif à cette instance de gouvernance pour que justement elle puisse procéder à une plus grande harmonisation des pratiques dans les territoires entre les 101 départements.
Calme-toi, Richard.
Je l'ai annoncé dans ma stratégie de prévention et de protection de l'enfance il y a de cela un mois, madame la députée. Nous allons renforcer les moyens financiers de cette instance de gouvernance afin qu'elle puisse disposer des moyens pour mener à bien cette politique. Vous voyez, madame la députée, c'est tout l'inverse de ce que vous évoquez. Au contraire, nous voulons renforcer la gouvernance et le pilotage de cette protection de l'enfance, car c'est ce dont nos enfants et notre pays ont besoin. Je vous remercie.
Adrien Taquet, donc, qui est sur une divergence d'analyse radicale avec Bénédicte Taurine.
Merci, monsieur le président. Ma question s'adresse à monsieur le Premier ministre et j'y associe Caroline Abadie et l'ensemble des parlementaires de Drôme, d'Ardèche, d'Isère et du Rhône, concernés par l'épisode neigeux exceptionnel de jeudi dernier.
Ouais.
Monsieur le Premier ministre, d'abord la neige, puis le noir. Quatre jours que nous venons de vivre dans la Drôme, sans électricité, sans réseau téléphonique, ni fixe, ni mobile, sans liaison radio pour les pompiers, pour certains sans chauffage, pour d'autres sans eau potable, avec une température jusque moins 15 degrés à Vassieux-en-Vercors dimanche dernier. Ce fut le cas dans le Vercors, mais aussi dans de nombreux villages, Dromois, Ardéchois, Isérois, Rodaniens, plus de 170 000 foyers coupés durablement. Cela est dû à l'épisode de neige dite lourde. Lourde comme les conséquences et les dégâts qu'elle a occasionnés, Kennedy se compare à la tempête de 99. Mais sur le terrain, nos maires, nos élus municipaux, leurs services techniques sont intervenus, ils se sont mis à la disposition des populations pour aider les plus fragiles. Et je veux leur rendre hommage ici, aujourd'hui, devant vous, monsieur le Premier ministre.
On en profite pour saluer tous les copains qui nous regardent depuis la Drôme, l'Ardèche, l'Isère.
Gendarmes et pompiers.
Courage à vous. Hein.
Qui sont intervenus nuit et jour sur le terrain. Je remercie les équipes sur le terrain d'Enedis, plus de 1000 agents qui sont intervenus et interviennent encore aujourd'hui pour les presque 10 000 foyers qui connaissent depuis 5 jours cette coupure d'électricité. Mais monsieur le Premier ministre, nous sommes nombreux à nous interroger sur le demain. À circonstances exceptionnelles, réponses exceptionnelles. Comment nos collectivités, nos acteurs économiques, agriculteurs, commerçants, les populations vont-elles être indemnisées des conséquences de cet épisode météorologique exceptionnel ? Je vous remercie.
Arrêtez de privatiser le service de distribution électrique, renationaliser EDF et hop, ça repart. Alors oui, peut-être, mais en même temps, ce n'est pas parce que tu nationalises EDF que tu empêches la neige de tomber et que ça enfuit des lignes.
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, madame la députée,
c'est une question dans la question, c'est vrai. Elisabeth Borne, donc, il va lui répondre. Que fait le gouvernement pour éviter, enfin, pour aider les collectivités à éviter de se retrouver dans ce genre de bordel ?
24 heures sur 24, par tous les temps, pour porter assistance, pour rétablir la circulation et l'électricité dans de nombreux foyers.
Merci beaucoup, Yarki. Merci.
Alors, l'épisode de neige qui est intervenu jeudi dans le sud-est a été exceptionnel, à la fois par son ampleur et, comme vous l'avez souligné, par le fait que la neige était particulièrement lourde et collante. Et cela a de fait eu un impact important sur notre réseau de distribution, avec des chutes de poteaux, des lignes coupées. Et au plus fort de la crise, vendredi matin, ce sont effectivement 330 000 foyers qui étaient privés d'électricité. Moi, je voudrais saluer à mon tour la mobilisation exceptionnelle d'Enedis et de RTE, avec plus de 2 300 agents venus de toute la France pour rétablir le réseau, pour mettre en place des solutions d'attente, notamment des groupes électrogènes. Et leur intervention était d'autant plus compliquée que les conditions d'enneigement rendaient l'accès et les interventions difficiles. Alors, si je suis bien consciente que le temps paraît long et souvent trop long dans ce genre de circonstances pour les foyers concernés, je peux vous assurer que le maximum a été fait pour rétablir la situation aussi rapidement que possible. Et hier soir, là, on était quasiment revenu à la normale. Des interventions vont encore se poursuivre dans les prochains jours, notamment pour réaliser les réparations définitives ou pour remplacer les groupes électrogènes qui avaient été mis en place. Et viendra ensuite effectivement le temps du bilan des dégâts. Et je peux vous assurer que de l'engagement de l'État aux côtés des territoires qui ont été victimes de ces intempéries.
Merci, Madame la Ministre. Madame la députée.
Merci, Madame la Ministre. Il faudra, le temps venu, faire un retour d'expérience de ce que nous avons vécu sur le terrain, notamment en termes de télécommunications, puisque nous n'avons pas pu, nous avons été complètement déconnectés sur certains territoires. Merci,
Madame la députée. Ah bah, quand il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus d'électricité dans les antennes relais, tu ne peux plus téléphoner avec ton portable, c'est sûr.
Merci, la parole est à monsieur.
Mais c'est vrai que ça pose des vraies questions, tu ne peux plus appeler les pompiers et tout. Enfin, non, c'est. Claude Le Ganay.
La question est adressée au ministre de l'Intérieur. Le quart scolaire est passé juste avant. Ce sont les mots d'un riverain de Mirepoix sur Tarn, peu de temps après l'effondrement du pont sur la départementale 71 en Haute-Garonne. Cet effondrement a coûté la vie à une adolescente et au chauffeur d'un poids lourd. Et naturellement, je m'associe à Sylvia Pinel et à tous nos collègues à la douleur des familles. Responsabilité du chauffeur ou non, l'enquête le dira. Mais aucune erreur individuelle ne devrait conduire à une situation si catastrophique. Si un pont considéré comme bien entretenu peut tuer, qu'en est-il des ponts qui n'ont pas bénéficié de contrôles réguliers ? On parle de 25 000 ponts en mauvais état structurel, principalement à la charge des départements et des communes, lesquels sont bien conscients du danger, mais pécuniairement impuissants face au coût des travaux et à leur complexité technique. Vous le savez, ces éléments sont issus de la mission d'information de messieurs les sénateurs Chaise et Dagbert, dont le rapport a été remis en juin 2019. Il était intitulé « Sécurité des ponts, éviter un drame ». Les ponts, c'est les ouvrages.
Vous voyez que ça sert à quelque chose, les rapports parlementaires. Sur le moment, on se dit que ça sert à rien de faire une mission sur le sujet. Et puis, en fait, trois mois plus tard, quand on redéterre le rapport en disant, putain, au fait, on l'avait dit que c'était le bordel et que les ponts n'étaient pas inspectés.
Imposer le taux zéro d'alcoolémie au volant. Mais la sécurité ne passe pas uniquement par la contrainte individuelle, mais aussi par un accompagnement financier significatif.
Claude Le Ganay, en tout cas, il est élu dans le Loiret, député Les Républicains, cadre A dans les collectivités locales.
C'est-à-dire dès l'année prochaine,
et les hôpitaux publics, pour KRS, quoi.
Territoriales de 130 millions d'euros par an sur 10 ans et les accompagner pour établir les diagnostics.
Merci, voilà, Claude Le Ganay qui demande des mesures précises et chiffrées.
Djebari, secrétaire d'État.
Pour éviter qu'un drame similaire à ce qui s'est passé dans le Tarn se
répète. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député, vous avez rappelé le drame survenu hier matin à Mirepoix-sur-Tarn et je tiens d'abord à avoir une pensée pour les victimes, leurs familles, les équipes de secours qui se sont mobilisées très tôt hier matin et un certain nombre de témoins qui, au péril de leur vie, ont porté assistance aux victimes de l'accident. Vous savez qu'une enquête judiciaire est en cours et que j'ai par ailleurs diligenté le BEA des transports terrestres pour tirer toutes les conclusions techniques.
Le BEA, c'est le bureau d'enquête et d'analyse. Donc quand il y a un accident grave, le BEA s'occupe de essayer de comprendre ce qui s'est passé.
À plusieurs reprises, une fois de façon détaillée en 2017 par les équipes du CEREMA et une fois en 2018 par les services du conseil départemental qui n'a pas trouvé à ce moment-là en 2017.
Ah, je savais pas. 2018, le pont en question a été inspecté deux fois.
Sans préempter ce que pourront dire les différentes enquêtes.
Attends, quand t'as un 45 tonnes qui se met dessus.
Il semblerait que le poids lourd qui a emprunté le pont hier matin circulait avec un tonnage très largement supérieur aux 19 tonnes qui étaient autorisées sur cet ouvrage. Il appartiendra évidemment aux différentes enquêtes de dire les faits et d'en tirer les responsabilités, y compris sur le plan pénal. Mais je vais vous répondre d'une manière plus générale sur votre interpellation sur la sécurité des ponts. J'ai eu l'occasion d'avoir ce débat avec les sénateurs et notamment avec le président Maurey. Sur la sécurité des ponts, l'État est au rendez-vous, notamment sur les ouvrages de l'État, puisque nous avons inscrit dans la loi d'orientation des mobilités une augmentation très significative des crédits portée à 120 millions d'euros à compter de 2026. Nous sommes également au rendez-vous en lien avec les collectivités pour recenser un certain nombre d'ouvrages, qu'on appelle les ponts de rétablissement, qui avaient été un peu oubliés, que nous recensons d'ici à la fin de l'année et que nous allons cofinancer avec les collectivités, avec l'État, avec les opérateurs.
C'est qui lui? C'est Jean-Baptiste Djebbari qui est nouveau ministre des Transports.
À l'ensemble des
et du coup, ouais, ça affiche n'est pas voilà, encore à jour, excusez-nous.
C'est ce que je souhaitais apporter à votre carrière aujourd'hui.
Voilà, Jean-Baptiste Djebbari, il est pilote d'avion, hein, pour Merci. Ceux qui se posent la question.
La parole est à monsieur.
Et voilà, il a apporté la réponse sur ce que fait l'État pour vérifier la solidité des ponts et des ouvrages.
En juin 2019, vous aviez annoncé un acte 2 du gouvernement pour répondre aux aspirations des Français et apaiser la France. Force est de constater que malheureusement, le compte n'y est pas. Après les réformes qui ont conduit à la grande crise des Gilets jaunes, une grande partie de nos concitoyens n'a pas été apaisée par les mesures d'urgence prises il y a un an, ni par les nouveaux projets entrepris. Des personnels hospitaliers aux étudiants, des assistantes maternelles aux pompiers, la liste est longue de nos concitoyens qui manifestent inquiétude, voire colère et désarroi. À l'occasion du Salon des maires, je veux rendre hommage aux élus locaux qui eux aussi se sentent souvent méprisés, humiliés, découragés par des décisions trop technocratiques les concernant. Alors que nous venons de commencer l'examen de la loi Engagement et Proximité, en soulignant le bon travail de concertation mené par le ministre, nous savons tous que cette loi ne suffira pas seule à rétablir la confiance. Monsieur le Premier ministre, rien ne changera si vous ne changez pas en profondeur le cadre de vos décisions et la méthode. Décentraliser massivement auprès des collectivités et des territoires tout ce que l'État ne saura jamais faire, trop éloigné qu'il est du terrain, logement, transport, sport, culture, santé, lâchez-vous. Les collectivités ont besoin aussi d'autonomie réglementaire et fiscale. Elles ont aussi besoin d'être reconnues comme des partenaires respectés et que l'État enfin tienne sa parole. Faites confiance aux élus locaux, soyez leurs partenaires et vous ne serez jamais déçus.
Bertrand Pancher, le député de la Meuse, il est proche de Jean-Louis Borloo, figurez-vous, Bertrand Pancher. Et il pose une question à son tour sur les collectivités locales. Je précise que son métier, c'est directeur du développement dans une société d'archivage.
Associez les corps intermédiaires à vos décisions, organisations professionnelles, syndicales, ONG, associations. Renforcez le Parlement, permettez-lui de se doter enfin de moyens réels pour contrôler l'administration et éviter les erreurs. Monsieur le Premier ministre, consultez enfin systématiquement nos concitoyens.
Merci, monsieur
Bertrand Pancher.
La parole est à monsieur
qui arrive à la fin de sa question. Et c'est Olivier Dussopt à nouveau qui va lui répondre.
Du ministre de l'Action
sur les collectivités locales.
Merci, monsieur le président. Monsieur
c'est pas un parti politique, en l'occurrence, c'est un groupe parlementaire qui s'appelle Liberté et Territoire.
Congrès des maires, vous aurez
répondu. Se situe au centre droit.
Opportunément, en soulignant les travaux préparatoires qu'elle mène pour rédiger le projet de loi de différenciation.
Ouais, c'est genre UDI à peu près, ouais.
Et de déconcentration.
Donc c'est un groupe d'opposition, mais constructif, comme ils le disent eux-mêmes.
La volonté aussi de mettre en avant le principe de subsidiarité pour faire en sorte que nous puissions ensemble décider quel est le meilleur niveau d'action pour justement être efficace au service de nos concitoyens. La volonté enfin de déconcentrer. Déconcentrer pour rapprocher la décision, c'est ce qui nous a amené, ça peut paraître une décision technique, mais c'est important au quotidien. A acté la semaine dernière, sous l'autorité du Premier ministre, lors du comité interministériel de transformation de la fonction publique, la déconcentration de 95% des décisions individuelles prises par l'administration pour donner aux chefs de service dans les territoires la capacité d'appréciation et donner à la décision la vitesse et la réactivité. Nous voulons faire en sorte de déconcentrer des services. Nous avons identifié 6000 emplois de l'État qui aujourd'hui sont implantés soit à Paris, soit en petite couronne, soit dans des grandes métropoles régionales, qui rendent des services que l'on considère comme des services d'instruction, de back-office dans un très mauvais français, qui peuvent être délocalisés vers des régions périphériques, des régions rurales. Et nous allons mettre en œuvre ces délocalisations sur la base du volontariat. Près de la moitié de ces emplois relèvent du ministère de l'Action et des Comptes Publics. Et Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes Publics, a publié il y a quelques jours l'appel à projet et le cahier des charges pour que les communes et les intercommunalités puissent se positionner et dire quelles conditions et comment elles souhaitent accueillir des agents de l'État dans leur territoire. Nous avons la volonté de rapprocher l'État des territoires, de rapprocher la décision des territoires, de faire
Donc si j'ai compris, ils veulent déménager des services centraux, enfin des services de back-office, qui justement ne sont pas absolument essentiels à Paris, quoi,
et, le projet de loi
et d'aller les foutre à la campagne.
L'occasion d'entendre toutes vos contributions.
Oui, note.
Merci, monsieur le ministre. La parole est un monsieur.
Je précise que l'État le fait déjà depuis quelques décennies hein, d'installer dans des territoires spécifiques un certain nombre
Merci
de services.
Merci, Monsieur le Président. Cette question s'adresse à Monsieur le Premier ministre.
Service centraux. Stéphane Peu.
Dernier, vous êtes venu dans mon département de Seine-Saint-Denis avec de nombreux ministres.
Oui.
Vous y avez fait un discours très attendu et des annonces dont j'ai immédiatement souligné, sans esprit de polémique, qu'elles comportaient peut-être des manques, notamment en matière d'éducation, mais aussi des avancées importantes et attendues. À cette occasion, vous avez dit « la Seine-Saint-Denis ne se contentera pas de mots ». Vous avez raison. Mais sachez aussi qu'elle ne se contentera pas d'un tour de passe-passe. Or, la semaine dernière, votre majorité a fait adopter en catimini un amendement au PLF qui va prélever de 75 millions d'euros le budget des départements d'Île-de-France.
Projet de loi de finances.
L'opération est tellement brutale et grossière que les 7 départements d'Île-de-France et la ville de Paris dénoncent d'une même voix et la qualifient, je les cite, de racket et de triple mensonge. Mensonge parce que cette décision a été prise sans aucune concertation, contrairement aux propos du ministre. Mensonge ensuite avec votre tentative d'opposer l'Île-de-France à la province en truquant le montant des droits de mutation. Mensonge enfin quant à la finalité de cette ponction qui n'ira pas à la Société du Grand Paris, mais financera pour l'essentiel votre part du contrat de plan État-Région. Alors, comment vous suivre? Comment vous croire, Monsieur le Premier
Stéphane
ministre
Stéphane Peu, député de la Seine-Saint-Denis, la député GDR, donc de proche des communistes, qui pose une question au gouvernement pour essayer de mettre au regard les paroles du Premier ministre avec les actes du gouvernement. Le Premier ministre qui, effectivement, il y a quelques semaines, il y a quelques jours, est venu présenter en Seine-Saint-Denis un grand plan pour la Seine-Saint-Denis de la part du gouvernement, avec des investissements, avec des postes développés, avec tout un tas de trucs qui ont été prévus.
Secrétaire d'État,
et là, Stéphane Peu qui fait remarquer que dans le cadre du PLF, le gouvernement a fait passer une baisse de 75 millions d'euros de dotation pour les collectivités d'Île-de-France, ce qui selon lui est un petit foutage de gueule.
Paris est primordial.
On écoute Jean-Baptiste Djebbari à nouveau.
Pour son développement urbain que pour son attractivité économique, c'est le cas évidemment aussi en Seine-Saint-Denis. Vous savez que c'est la Société du Grand Paris qui finance les travaux, pour part en endettement et pour part avec de la fiscalité affectée, et que suite à l'actualisation de 2018, qui a quand même vu les coûts augmenter de 24 à 35 milliards d'euros, un effort supplémentaire sur le plan des ressources a dû être engagé. Et c'est dans ce cadre que l'amendement gouvernemental à la loi de finances 2020 a été déposé en affectant une partie des frais de notaire de la DMTO des départements franciliens à la Société du Grand Paris visant à couvrir l'augmentation tendancielle de ses besoins. Vous avez rappelé que l'amendement voté effectivement inscrit 75 millions d'euros en 2020, puis 60 à compter de 2021. Mais vous avez oublié de mentionner que de façon transitoire, seulement pour les prochaines années, ces 50 millions d'euros qui seront réalloués au financement des opérations prioritaires dans le contrat de plan État-Région de l'Île-de-France et pour des opérations évidemment en lien avec le Grand Paris. Je pense notamment à des opérations chez vous, le T1 Est, mais aussi très largement l'optimisation des RER B et D. Et sur la forme, monsieur le député, je
j'ai le cerveau qui commence à griller, là j'ai du mal sur le contrat de plan de en lien avec le RER et le Grand Paris.
Invité par deux reprises et encore la semaine dernière.
Je vois ce que c'est, mais
de manière à parler très concrètement de ces sujets de ressources et que par ailleurs, sur le plan technique, la ressource a été très largement évoquée avec les services des différents conseils et des différents conseils avec le préfet de la région Île-de-France, Michel Cadeau. Voilà, monsieur le député, je crois que nous partageons l'urgence des travaux du Grand Paris, où l'État est engagé aux côtés des collectivités et la porte du gouvernement reste bien sûr ouverte.
Merci.
Heureusement qu'elle est ouverte, la porte, parce que... Stéphane Peu qui reprend la parole.
D'abord, quand on ne peut pas... Une concertation, ce n'est pas une négociation. Et les départements qui ont été invités quelques heures avant le dépôt de l'amendement, qui lui-même n'avait pas été déposé en commission, n'étaient pas d'accord avec cette proposition. Et par ailleurs, le député Gilles Carrez a fait des propositions au Premier ministre
Merci,
sur le financement
Monsieur
de la société.
Ministre. La parole est Stéphane à Peu qui est pas content. Marine Brenier.
Merci Monsieur le Président. Ma question s'adressait initialement à Monsieur le ministre de l'Intérieur. Monsieur le ministre, depuis près de 5 ans, un débat s'est installé en France sur la question de l'utilisation de la reconnaissance faciale.
Ah.
Les nouvelles technologies nous permettent d'avoir un outil suffisamment performant pour garantir la préservation des libertés individuelles tout en assurant une plus grande sécurité collective. Qu'il s'agisse d'un enfant perdu dans la foule, de la disparition d'une personne atteinte d'Alzheimer ou de la sécurité d'une manifestation publique, la reconnaissance faciale apporte des résultats considérables. Elle est un outil incontournable pour faciliter le travail des forces de l'ordre, aujourd'hui épuisées par les gilets jaunes et la menace terroriste permanente qui pèse sur notre pays.
Ah, carrément.
L'expérimentation menée lors du carnaval de Nice a su convaincre les sceptiques et démontrer son efficacité.
Marine Brenier, la députée des Alpes-Maritimes, qui défend le recours à la Saint-Étienne, reconnaissance faciale,
les lycées de la région sud ont été rejetés par la CNIL. Et quel
la CNIL, c'est la Commission nationale informatique et liberté.
Alors que vos prédécesseurs l'ont toujours accusé d'être un frein permanent qui justement, à toute expérimentation, la CNIL a édité vendredi dernier des recommandations.
Responsable de protéger les libertés hein, contre les dérives du numérique. Marine Brenier, elle est élue à Nice. Hein.
Tout comme nous.
Elle fait partie de l'équipe d'Estrosi.
Législative afin de faire face aux dangers qui pèsent sur nous quotidiennement.
Oui, Estrosi.
Et monsieur le ministre, je vous rappelle que nous accueillerons aussi en 2024 les Jeux Olympiques. Aurez-vous le courage politique de porter cette avancée? Les Français ne méritent-ils pas que tout soit mis en œuvre pour leur apporter une sécurité optimale? Nous sommes prêts sur les rangs des Républicains à vous accompagner dans la mise en place de cette réforme. L'heure est aux actes. Je vous remercie.
Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Marine Brenier, qui dit que merci, ça y est, technologiquement, on est capable de faire de la reconnaissance faciale et que ça peut être utile et qu'il y a des expérimentations qui ont été faites au carnaval de Nice et dans des lycées.
Députés, madame la députée Marine Brenier, je vous sais attachée à ces questions puisque vous avez vous-même porté une proposition de loi en 2016 sur ce sujet. Je sais que la ville de Nice a lancé une expérimentation donc qui est suivie par la CNIL, qui vise d'ailleurs plus à tester la fonctionnalité d'un dispositif que de prévoir un dispositif opérationnel. Mais nous suivons bien évidemment cette expérimentation avec une grande attention s'agissant de nouvelles technologies. Vous savez, en particulier donc à Nice, mais d'une manière générale, ce gouvernement s'intéresse aux nouvelles technologies, vous l'avez cité. Ça nous permet de procéder à des reconnaissances faciales, à détecter des mouvements de foule, à détecter dans une foule des gestes ou des comportements anormaux. Et donc, bien évidemment, nous y portons la plus grande attention.
C'est quoi les gestes anormaux dans une foule?
Vous savez que mon passé professionnel me permet de le dire avec beaucoup de bon sens. Les forces de sécurité intérieure sont également intéressées par ces dispositifs, à la fois en termes de détection et d'investigation. C'est pour cette raison.
Laurent Nunez, il a parlé de son passé professionnel. Il était directeur général de la sécurité intérieure.
De la réflexion qui s'ouvre dans le cadre du livre blanc, qui nous permettra de faire déjà le point sur la façon dont sont déjà utilisées ces nouvelles technologies.
Donc un très très haut fonctionnaire du ministère de l'Intérieur.
De faire aussi état du besoin et de commencer à réfléchir sur d'éventuelles législations à prendre sur ce sujet. Mais comme vous le savez, madame la députée, et comme le sait l'ensemble de la représentation nationale, c'est un sujet qui doit être étudié avec beaucoup d'attention, parce que s'il renforce à l'évidence les moyens d'action des services et des forces de sécurité intérieure, il met aussi en jeu la liberté individuelle de nos concitoyens. Et tout est question d'équilibre, et donc il faudra prévoir des garanties d'usage, et sans doute procéder par expérimentation, comme on l'a toujours fait sur ces sujets. Des nouvelles technologies, mais soyez assurés que le gouvernement s'engage résolument dans la réflexion sur cette voie.
Et ben on en parle alors. Blanc. La reconnaissance faciale
merci,
comme outil.
Monsieur le ministre, madame la députée.
Oui, merci monsieur le ministre pour vos réponses, mais les expérimentations ont été montrées, ont été faites, et on se rend compte justement qu'on arrive à garantir cet équilibre entre les libertés individuelles, la sécurité collective. La CNIL vous demande maintenant.
La parole est à madame Isabelle Florenne.
Eh ben, c'est intéressant comme sujet, on reviendra dessus, j'espère.
Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, ma question s'adresse à Madame la ministre de la Transition écologique et solidaire. J'y associe mes collègues députés franciliens. Les débats sur le projet de loi de finances pour 2020 qui ont eu lieu la semaine dernière ont mis une fois de plus en évidence le problème de financement de la Société du Grand Paris. Et une fois de plus, sur le fond comme sur la forme, nous nous interrogeons. Sur le fond, quand allons-nous enfin pouvoir disposer d'un mode de financement pérenne pour la SGP? Depuis le début, le gouvernement multiplie les mesurettes. Augmentation de 20% de la DAX sur les bureaux avec création d'une zone premium il y a 3 semaines. Et la semaine dernière, reprise aux 7 départements franciliens et à la ville de Paris, des recettes issues des droits de mutation à titre onéreux. Vous l'en avez parlé, monsieur Peu, 75 millions la première année, puis 60 millions d'euros à partir de 2021. D'ailleurs, madame la ministre, quid de la région Île-de-France? C'est la grande absence.
Isabelle Florenne, la députée des Hauts-de-Seine, députée MoDem, qui est d'accord avec le député GDR, communiste, pour dénoncer cette incohérence du gouvernement qui chourde du pognon. sur au département d'Île-de-France.
Là aussi, nous nous interrogeons.
Enfin, collectivité d'Île-de-France.
Par deux fois, le gouvernement a pris des mesures sans concertation avec les départements et les communes. Par deux fois, le gouvernement a également pris les élus nationaux à défaut en présentant des amendements à la dernière minute sans étude d'impact et sans chiffrage précis. Madame la ministre, les élus nationaux et les élus locaux sont prêts à monter à bord du Grand Paris Express pourvu qu'ils sachent où ils vont.
Le Grand Paris Express, c'est ce projet de métro, vous savez, qui fait la boucle autour de Paris, merci, de banlieue à banlieue. Isabelle Florenne, elle est fonctionnaire territoriale de catégorie A. Elle connaît très très bien les collectivités locales. Et donc elle repose une question sur le même sujet, et notamment plus spécifiquement sur le financement du Grand Paris Express.
Un point de fond et un point de forme. Sur le fond, nous sommes le gouvernement qui a permis de sincériser le financement de ces projets extrêmement importants, qui sont quand même passés, en tout cas qui ont été réévalués, de 24 à 35 milliards d'euros. Il s'agit là d'un glissement tout à fait significatif, je crois, de l'évaluation des besoins financiers. 24 à 35 milliards d'euros, plus 50%. Et sur le fond, ce gouvernement l'a sincérisé tant sur le plan budgétaire que sur le plan du calendrier. Et sur la forme, Madame la députée, la première réunion sur ce sujet a eu lieu il y a un an avec Madame Elisabeth Borne, alors ministre des Transports, et Madame Jacqueline Gourault, en charge des collectivités territoriales, avec les 8 présidents de conseils départementaux. Donc je crois que tant sur le fond que sur la forme, ce gouvernement a été au rendez-vous et sera au rendez-vous ces prochains temps pour aider à réaliser ces projets ô combien importants.
Madame la députée.
Ouais, le gouvernement l'a sincérisé. Le principe de sincérité budgétaire, c'est un principe important en matière de budget public. C'est le fait qu'en fait, les calculs de l'État sont sincères, que les chiffres que l'État présente aux députés, aux parlementaires, que le gouvernement présente aux parlementaires dans le cadre de la présentation du budget sont des chiffres mesurés,
que nous en soyons informés et
qui sont exacts, cohérents, etc. En tout cas, Isabelle Florenne, qui a l'air un peu vénère, la députée MoDem.
La parole
pas très contente après le gouvernement.
Quatennens.
De la prochaine fois, vous évitez de nous déposer un putain d'amendement à 2h du matin.
Ministre,
Adrien Quatennens.
Le 5 décembre, nous manifesterons. Nous manifesterons car tout le peuple français a intérêt au retrait de votre réforme des retraites. Nous manifesterons car la retraite est un outrage de la vie qu'il faut cajoler et non pas une équation à régler sur un coin de table. Nous manifesterons car le système par points ne corrigera rien des inégalités d'espérance de vie entre le cadre et l'ouvrier, entre le riche et le pauvre. Nous manifesterons car ni l'universalité, ni la lisibilité ne sauraient justifier une harmonisation par le bas qui rendrait la vie plus dure. Nous manifesterons car nous refusons la division du peuple français que vous visez en agitant les régimes spéciaux qui ne concernent pourtant que 3% de la population active. Nous manifesterons car il est vain d'exiger des Français qu'ils travaillent plus longtemps alors qu'à l'âge de partir en retraite, un actif sur deux n'est déjà plus en emploi. Nous manifesterons car votre intention réelle n'est pas d'améliorer la vie, mais de faire des économies sur le dos des futurs retraités de ce pays. Nous manifesterons car en choisissant de plafonner à 14% la part des retraites dans le produit intérieur brut, alors que la part des seniors dans la population va continuer d'augmenter, vous allez baisser les pensions ou obliger les Français à travailler au-delà de l'espérance de vie en bonne santé. Nous manifesterons car nous comprenons ce que signifie la satisfaction des assureurs et des banques à l'idée de voir votre réforme s'appliquer. Nous manifesterons car nous savons qu'il est possible de financer d'autres choix. La liberté de partir à un âge où l'on n'est pas cassé par le travail, dès 60 ans, avec un niveau de pension digne. Nous manifesterons, et c'est votre rôle que de permettre au peuple français de le faire en toute sécurité, sans fracturer le pays ou trier les Français en permettant que des représentants de l'État se déclarent comme étant dans un camp adverse. Le 5 décembre, nous manifesterons sur cette réforme.
Adrien Quatennens qui pose une question sous forme de trailer de la grande manif du 5 décembre, la grève générale. Et c'est Jean-Paul Delevoye qui va lui répondre, le haut commissaire aux retraites, qui va défendre sa réforme de retraite face à Adrien Quatennens, qui, si je déconne pas, est coordinateur Monsieur national de la France Insoumise. Jean-Paul Delevoye qui va défendre sa réforme.
Merci de nous avoir donné les raisons pour lesquelles vous souhaitiez manifester le 5. Et permettez-moi de vous dire à quel point certains de vos arguments sont démentis par les faits. Vous affirmez que la part du gâteau restant stable, le nombre de retraités augmentant, les pensions baissent. Depuis 10 ans, la pension moyenne a augmenté de 20%, le nombre de retraités a augmenté de 2 millions, la part du gâteau est restée à 14%. Et quand vous regarderez ce qui sera en débat jeudi au sein du Conseil d'orientation des retraites, vous avez très clairement l'affirmation de ce que je viens de dire, affirmé par le Conseil d'orientation des retraites. La seconde, vous affirmez que nous cherchons à faire des économies. Nous cherchons au contraire à garantir l'avenir et la stabilité d'un système en faisant en sorte que dès son départ, le système sera équilibré et que nous souhaitons embarquer dans ce système plus de solidarité envers les précaires, plus envers les femmes. Les simulations que nous avons faites, c'est que la pension, l'écart moyen des hommes et des femmes en retraite de 40% sera diminué de 10 à 20%. Et donc, ce projet de cohésion.
Ça fait partie des arguments de Jean-Paul Delevoye sur la mise en place d'un régime de retraite universel par points, c'est que ça permettra de mieux tenir en compte des inégalités salariales entre les hommes et les femmes et de la prise en compte des carrières hachées.
Car
les gens qui ont dû changer
de poste assez souvent, qui ont dû faire des pauses, des arrêts, des périodes de chômage courtes, etc.
Monsieur le Président, Jean-Louis Thériault. Ma question est adressée à Monsieur le Premier ministre. Je viens ici me faire l'écho de l'inquiétude sourde des départements franciliens. Un amendement du gouvernement au PLF 2020, présenté à la dernière minute, sans concertation, a privé nos départements d'une partie de leur DMTO. Vous justifiez cette mesure par l'augmentation des prix de l'immobilier. Cette décision a une apparence, celle d'une mesure de justice pour financer la Société du Grand Paris. Elle a une réalité, faire porter à la Grande Couronne le poids d'investissements dont elle ne profitera pas. Dans mon département, la Seine-et-Marne, ce sont 10 millions d'euros que perdront les Seine-et-Marnais alors même que nous
Putain,
ne sommes pas
il y a une députée des Hauts-de-Seine, un député de Seine-Saint-Denis et un député de Seine-et-Marne
temps,
qui pose une question sur le même sujet en disant « Putain, au milieu de la nuit, vous nous avez enculé de 75 millions d'euros, bande d'enfoirés, sans nous tenir au courant, sans rien, vous avez fait un truc de pute. »
À l'unanimité, tous les élus Seine-et-Marnais, y compris les membres de votre majorité, ont voté une motion exprimant leur colère. Alors mes questions sont simples, Monsieur le Premier ministre. Que signifient ces décisions? Est-ce l'institution départementale que vous entendez dévitaliser? Que reste-t-il de l'autonomie financière des départements alors que sans cesse de nouvelles charges sont transférées sans compensation? Quand seront libérés les fonds du FDSEI? Que faites-vous enfin du quotidien des habitants de la Grande Couronne? Autant que tous les autres, ils ont besoin des ressources des départements, ils ont besoin de notre respect à tous. Il n'y a qu'un seul territoire national, jamais je n'opposerai un territoire à l'autre, mais de grâce, n'ajoutez pas à d'autres souffrances ce qui sera ressenti comme une injustice territoriale.
Jean-Louis Thériault qui tient une chronique
Merci.
Dans le Figaro Histoire, figurez-vous.
Monsieur Jean-Baptiste Djebari.
Une chronique s'appelle à l'école de l'histoire.
Secrétaire d'État.
Et donc c'est à nouveau Jean-Baptiste Djebari, le pompier, qui va essayer d'éteindre
Merci,
le feu.
Le président, mesdames et messieurs,
des députés, élus d'Île-de-France.
Merci pour votre question. J'espère avoir apporté quelques éléments d'éclairage dans mes réponses précédentes. Je suis d'autant plus sensible à votre question que je suis natif de Seine-et-Marne. Et donc particulièrement intéressé à son développement, à son aménagement urbain et à son attractivité économique. Et je crois que le projet du Grand Paris y répond. Et je crois que notamment les 50 millions d'euros qui sont alloués à titre transitoire pendant 3 ans dans le cadre du contrat de plan État-région Île-de-France y concourent également dans des projets très concrets. Et donc je veux ici vous rassurer à la fois sur l'ouverture du gouvernement et sur la volonté de continuer évidemment à dialoguer de façon féconde avec les 8 présidents de conseil départemental et sur l'ambition que l'État porte pour accompagner ces projets de développement dans un calendrier réaliste. C'est l'engagement, c'est l'ambition que nous avons pris ensemble et c'est le projet que nous mènerons, j'espère, collectivement.
Merci, Monsieur le Ministre. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue pour 10 minutes.
Jean-Louis Djebari, que je trouve très, très à l'aise dans cet exercice un peu compliqué de marcher sur un fil.
Jean-Baptiste.
J'ai dit quoi ?
Jean-Louis.
Ah, c'est Jean-Louis Etienne. Je le confonds avec Jean-Louis Etienne. C'est le côté pilote d'avion. bref, c'est la fin de la séance. Restez avec moi, on va débriefer. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette séance ? On a parlé des manifs de samedi. Alors, c'est intéressant parce que, alors, du coup, on ne peut pas dire qu'au sein de l'Assemblée nationale, il n'y ait pas des opinions divergentes. Hein. Alors là,
entre les députés Les Républicains qui disent que c'était le chaos à Paris, qu'il fallait sévir beaucoup plus fortement que ça, qu'on commence à y en avoir marre des gilets jaunes tous les samedis, il faut taper plus fort, et Hugo Bernalicis de la France Insoumise qui dit c'est un scandale et qui nommément s'en prend au préfet de police de Paris Didier Lallement en demandant sa tête. Ça fait... c'est impressionnant. Hein. Oui, la séance est suspendue pour 10 minutes parce qu'après, ils reviennent dans l'hémicycle pour débattre du texte en cours. Actuellement, ils sont en train de débattre en séance publique, si je dis pas de conneries, du projet de loi engagement et machin dans les territoires. Projet de loi de finances. Ok, donc rien à voir. Ouais, c'est le PLF. On est en, ouais, 19 novembre, c'est le PLF. Ah oui, non, c'est en commission qu'ils sont en train de bosser sur le truc territorial. Ça manque toujours un peu d'extrême droite. Ils ont gardé génération identitaire au début de la séance. Ils ont parlé de génération identitaire au début de la séance. Non. Non, non, ils ont juste parlé des gilets jaunes. Si. Il y a Hugo Bernalicis, je crois, qui a fait qui en a parlé à demi-mot en disant que au moment où il y avait les manifs de gilets jaunes réprimés Place d'Italie, il y avait la manifestation d'extrême droite qui défilait. J'ai un doute. Est-ce qu'il l'a dit? Whatever. Mais en tout cas, voilà, Hugo Bernalicis, le député de la France Insoumise, qui a été assez véhément dans sa question, en même temps c'était proportionnel à ce qui s'est passé samedi, hein, notamment deux députés de la France Insoumise, Alexis Corbière et Adrien Quatennens, qui étaient Place d'Italie, et apparemment Alexis Corbière il s'est pris du gaz lacrymogène dans la gueule, donc c'est évidemment impressionnant. Et du coup, voilà, Hugo Bernalicis qui n'a pas mâché ses mots contre le gouvernement et qui a nommément pris à partie le ministre de l'Intérieur en demandant le limogeage de Didier Lallement, le préfet de police de Paris, chargé du maintien de l'ordre. Hugo Bernalicis qui a même accusé directement le gouvernement d'avoir organisé les désordres Place d'Italie pour décrédibiliser le mouvement des Gilets jaunes. Et le Premier ministre qui, plus tard, dans une autre question, en a profité pour... une question différente d'André Chassaigne sur la vie étudiante et la précarité des étudiants. Il a profité pour faire une incise en demandant à Hugo Bernalicis et à tous les députés de ne pas s'en prendre nommément à des fonctionnaires, fussent-ils des hauts fonctionnaires, fussent-ils les préfets, en disant si vous avez des reproches politiques à faire, vous les faites au gouvernement, donc au ministre, mais vous ne prenez pas à partie directement un fonctionnaire. Ce qui est vrai, mais en même temps c'est compliqué parce que quand Didier Lallement lui-même t'explique qu'il a choisi son camp face aux Gilets jaunes, bah... ça politise un peu le bonhomme, quoi. Donc, c'est pas pour autant une autorisation aux députés de s'en prendre à lui personnellement, mais vous voyez un peu sur la ligne de crête sur laquelle on est, quoi. On en parle de OKLM, la droite demande de lâcher les rênes sur la reconnaissance faciale. Moi, ça me met un peu mal. Bah, effectivement, on a la députée niçoise, dont le nom m'échappe à l'heure actuelle parce que je suis clacos, Marine Brenier. Marine Brenier qui demande à ce que la reconnaissance faciale soit utilisée en France, soit expérimentée. Enfin, d'après les expérimentations ont déjà été faites, d'un point de vue éthique et technologique, tout va bien. Donc c'est le moment de généraliser et d'ouvrir le truc. Et elle a notamment parlé du maintien de l'ordre. Elle a parlé des manifs de gilets jaunes et ensuite elle a parlé du terrorisme en disant que la reconnaissance faciale, c'est formidable, ça permet de détecter au sein d'une foule. Non, ça c'est Laurent Nunez qui lui a dit des comportements anormaux. Donc est-ce que faire un dab ou est-ce que faire une danse de Fortnite dans une foule, c'est un comportement anormal? Vous le saurez bientôt, vous recevrez une amende sur votre téléphone en direct en disant « Notre caméra vous a reconnu en train de en train de danser comme une merde, veuillez payer 75 balles. » Qui d'ailleurs viennent d'être débitées de votre compte PayPal. Donc voilà. C'était quand les tests? Bah, en l'occurrence, à Nice et dans les Alpes-Maritimes, il y a eu une expérimentation. D'après ce qu'a dit la députée Marine Brenier, il y a eu une expérimentation au cours du Carnaval de Nice. Avec le Carnaval de Nice, c'est une grande foule, il y a beaucoup de monde. Et la ville de Nice, qui est très très dotée en caméras de surveillance, a apparemment mené une expérimentation technique sur la reconnaissance faciale. Et il y a un autre truc qui est mis en place dans un lycée. Je me souviens, j'avais lu des articles là-dessus. Un lycée, je crois, dans les Alpes-Maritimes. Où là aussi la reconnaissance faciale, je crois, est utilisée pour noter la présence des élèves le matin. J'ai un doute là-dessus, à vérifier. Elle a parlé de Saint-Étienne. Ah, c'était peut-être Saint-Étienne alors, je ne sais plus. Je suis désolé, je suis très imprécis. La reconnaissance faciale pendant un carnaval. Bah, un carnaval, c'est une foule, hein. Ah oui, non, je vois ce que tu veux dire. Oui, si tout le monde porte un masque, ça fait un peu con, ouais. Oui, non, non, je vois ce que tu veux dire. Donc, voilà. Donc il y a eu ce sujet-là, effectivement, la reconnaissance faciale. Il y a eu le sujet donc de la manifestation des Gilets jaunes de samedi. Il y a eu le sujet de la précarité étudiante qui a été abordée à nombreuses reprises suite à cette tentative de suicide d'un étudiant lyonnais pour dénoncer la précarité étudiante et dénoncer la politique du gouvernement, des gouvernements successifs. Donc ça a été abordé notamment par le président Chassaigne, le président du groupe GDR, qui lui a valu une réponse directe du Premier ministre. On a parlé de la Drôme, de l'Ardèche, de l'Isère, avec ces précipitations de neige très abondantes qui ont coupé d'électricité plusieurs centaines de milliers de logements. Donc encore une fois, un gros bisou à nos amis isérois, ardéchois, drômois, qui nous regardent ou qui ne regardent pas parce qu'ils n'ont pas d'électricité, mais en tout cas on vous embrasse si vous regardez ça en replay, sous la couette, au chaud, avec une bouillotte et un chocolat chaud. Non, enfin, en vrai, courage à vous. On a parlé aussi de ce pont qui s'est effondré et où deux personnes ont perdu la vie suite à ce qu'un camion de 45 tonnes se soit engagé dessus. Alors j'ai appris de la bouche de Djebari que le pont avait été révisé quand même en 2017 et 2018. Il y a eu des inspections sur le pont. Donc, ouais. C'est difficile de dire qu'il y a un défaut de l'État. Tu vois, il y a un moment, ben en fait, le pont, on l'a checké, c'était bon, c'était OK. Il était limité à 19 tonnes. Bah ouais, t'as un camion de 45 tonnes qui ramène sa gueule, ça se casse la gueule. Et c'est. Enfin, c'est vrai. Ouais. Bref. On a parlé d'agriculture. Ouais, pas beaucoup. Aujourd'hui, pas beaucoup. On a beaucoup parlé du Congrès des maires de France. Je rappelle, hein, pour ceux qui sont arrivés en cours de route, qu'aujourd'hui s'ouvre le Congrès des maires de France, le Congrès annuel des maires de France, qui est un peu le. Comment dire ça ? L'Assemblée générale des maires de France ? Les dizaines de milliers d'élus locaux de mairies viennent à Paris à l'invitation de l'Association des maires de France pour tenir un congrès au cours duquel le président de la République prend la parole, plusieurs ministres sont présents, etc. Et c'est un peu un moment important pour faire le point sur la vie locale, les marges de manœuvre des municipalités, etc. Sachant qu'on est à 4 mois des élections municipales, c'est pas rien. Et que le gouvernement, et que commence l'examen d'un projet de loi sur le sujet. Le sujet de l'engagement local.
On a eu un premier retour sur ce qu'a dit Macron. Il était contre l'interdiction des listes communautaires aux municipales.
Emmanuel Macron est contre l'interdiction des listes communautaires aux municipales. Ok, il a un argument là-dessus, à part le fait que ça représente que dalle ou...
J'ai juste eu l'alerte info que je transmets.
Bon. Je précise que, oui, à l'heure qu'il est, Emmanuel Macron, je crois qu'il vient de finir son discours. C'était pas à Versailles. Non, tu confonds avec le congrès du Parlement. Le Parlement, quand il se réunit il se réunit à Versailles, effectivement. La seule salle qui est assez grande pour les réunions en congrès, c'est à Versailles. Et le Congrès des maires de France, c'est un congrès. C'est comme un congrès professionnel, si tu veux. C'est... Voilà. D'ailleurs, ce congrès ne serait pas le time to shine pour Barouin. Si, complètement. François Barouin, le président de l'Association des maires de France, qui d'ailleurs a des papiers dithyrambiques en ce moment dans la presse. Il se murmure dans les milieux autorisés politiques que François Barouin, pourquoi pas, why not, il pourrait éventuellement être un candidat à la présidentiable pour les Républicains en 2022. Peut-être que son côté consensuel et en même temps relativement jeune, même s'il a été ministre d'à peu près tout, homme d'expérience, homme de conviction, je sais pas, peut-être. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? De quoi on a parlé d'autre pendant cette séance ? Donc, la loi de finances, on a parlé de la tentative d'embrouille du gouvernement qui essaye de sucrer du pognon au département d'Île-de-France. Encore une fois, c'est marrant. Il y a vraiment trois députés des trois départements qui en ont parlé. Et en plus, je ne sais plus qui l'a dit dans le chat, mais des députés de tous les partis en plus. Hein. T'as un communiste, un modem et une modem et une. Les Républicains. Le temps d'écran, les fake news. Oui, non, mais ça c'était une boutade. Ça avance les élections municipales ? Bah, c'est bizarre comme question. Je crois que le calendrier avance. Ouais, je crois que jour après jour, on se rapproche un peu plus des municipales. Ça, je pense qu'on peut le dire. Une petite alliance Barouin-Bertrand-NKM, ça aurait de la gueule quand même. Je crois qu'NKM, elle s'est retirée hein, de la vie politique. Tu confonds peut-être avec Pécresse.
Ouais, plutôt Pécresse dans cette équation.
Boulot, le gilet jaune à la tchatche de Rouen, disait « Il y a très peu de secteurs efficaces et stratégiques pour faire des grèves, mais l'important, c'est que le reste des Français soutiennent pour les revendications communes. » Vous en pensez quoi, vous, des idées gilets jaunes dans le chat ? Bonne question. Désolé, je pensais à Pécresse. Non, mais t'inquiète, t'inquiète. Les Républicains, c'est mort comme le PS. On verra. Peut-être, hein. Effectivement, ils se sont pris une tôle tous les deux au présidentiel. Là, je crois que Macron a siphonné quand même pas mal de monde. Bonjour, vous suivez pas le monologue de Macron ? Non, on vient de terminer la séance des questions d'actualité au gouvernement. Moi, je vais pas enchaîner sur un discours d'Emmanuel Macron. Parce que là, je suis claqué. On dirait le début d'une blague. Alors, c'est un communiste, un modem et un républicain qui sont dans une salle. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils tapent sur le gouvernement qui leur a sucré du pognon. Il y a eu un député qui a eu une amende ou pas ? Oui. Adrien Quatennens. Non. François Ruffin, le député insoumis, a eu un rappel à l'ordre de la part du président de l'Assemblée nationale avec inscription au procès-verbal, ce qui est une sanction disciplinaire, si je puis dire, interne à l'Assemblée nationale et qui lui vaudra une retenue sur indemnité le mois prochain. François Ruffin, qui avait déjà, c'était lui qui avait arboré un maillot de foot à la tribune de l'Assemblée nationale, ce qui lui avait valu déjà une amende, enfin une retenue sur indemnité. L'électron libre du groupe La France Insoumise, qui enfreint le règlement et qui du coup perd un peu de pognon. C'est combien l'amende ? Je crois que c'est un peu important quand même. Hein.
C'est un pourcentage, mais
C'est pas rien.
Et je me demande si ça augmente pas en cas de récidive ou.
Je sais pas. Il s'est passé des trucs intéressants à la séance d'aujourd'hui, je viens seulement d'arriver. Oui, il s'est passé des choses intéressantes. Enfin, ça dépend ce que tu recherches. Hein. Si tu recherches du sang et de la sueur. Par contre, si on recherche de l'actualité politique, oui, il s'est passé plein de choses. On a parlé de collectivités locales, on a parlé des précipitations en Isère, on a parlé d'un pont qui casse la gueule et de personnes qui perdent la vie. On a parlé de manifestations des Gilets jaunes samedi, on a parlé du projet de loi de finances, on a parlé de la précarité étudiante. C'était une grosse séance aujourd'hui.
Puis il y a eu un peu de sang avec les premières questions de la France Insoumise aussi.
La France Insoumise a foutu l'ambiance, oui, ça c'est sûr, sur la question des Gilets jaunes. Un pourcentage de 6 500 €, ça va. Non, les députés touchent pas 6 500 €, non. Non, c'est moins que ça. C'est 3 000 et des brouettes, je crois. Indemnité de base. On a parlé de la reconnaissance faciale, ouais. Il y a eu une seule question sur le sujet, mais... Non, on a parlé des élus locaux. On a parlé des élus locaux avec toujours les députés qui disent « Je tiens à rendre hommage aux élus locaux qui sont les véritables visages de la République dans les territoires. » L'indemnité parlementaire brute s'élève à 5 623 €. Ah oui, c'est ça, tu rajoutes l'indemnité de résidence et de fonction, oui, d'accord. Non, moi je crois que c'était brut 5 623 et si tu retrouves en net, c'est 3 000 et des brouettes, je crois. On a parlé de la manif à Paris, ouais. Ouais. Absolument. Perso, j'ai trouvé intéressante la réponse d'Edouard Philippe sur la précarité étudiante. Oui, je suis d'accord avec toi. Moi, d'une manière générale, je trouve qu'Edouard Philippe apporte des réponses très politiques aux questions qui lui sont posées. C'est pas... On a connu des premiers ministres qui le voyaient, qui parfois essayaient un peu d'éviter des questions gênantes. Enfin, Édouard Philippe, il a évidemment toutes les réserves de la fonction avec un langage très choisi, etc. Mais tu sens que quand il répond aux questions au gouvernement, il fait de la politique, quoi. il répond sur le fond du sujet. En... Enfin, tu vois, il parlait à André Chassaigne. Enfin, tu sens qu'André Chassaigne et lui, c'est des responsables politiques qui font de la politique, quoi, qui parlent de politique au sens de mener des politiques publiques, etc. Donc, c'est évidemment, André Chassaigne, il est dans sa posture d'opposant, il rentre dans l'art du gouvernement, c'est normal, et ça correspond à ses convictions. Mais tu sens qu'Édouard Philippe lui répond en lui disant, mais enfin, vous serez d'accord avec moi, Monsieur le Président, que Monsieur le Président Chassaigne, vous serez d'accord avec moi pour dire que le compte n'y est pas, vous serez d'accord avec moi pour dire que l'effort est nécessaire. Enfin, je sais pas, je trouve qu'il y met de la conviction et bon. Donc voilà. On va s'arrêter là, les amis, pour cette émission. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Pensez à vous abonner. Merci à celles et à ceux qui se sont abonnés. Je vous fais des gros bisous. Merci beaucoup aux bénévoles qui ont préparé cette émission. Un gros bisou à Tristenza, Julie, Delphine et ta sœur qui ont organisé cette émission. D'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler qu'on est à la recherche de bénévoles. Si vous voulez filer un coup de main à la préparation de cette émission, il faut juste être disponible le mardi en début d'après-midi. Si vous bossez, si vous êtes étudiant et que vous avez un peu de temps le mardi en début d'après-midi, n'hésitez pas à contacter Tristenza. Je vais vous mettre. Attends. Merde, elle n'est pas dans le chat. N'hésitez pas à contacter Tristenza.
Elle fait partie des gens de l'ombre qui ne sont pas dans le chat pour ne pas être trop mis en lumière. Parce ouais, qu'elle fait preuve d'humilité.
Donc voilà.
Mais on l'embrasse.
Rejoignez-nous. Merci. Bisous.
Est-ce
générique.
Est-ce qu'on fait un raid
Est-ce qu'on raid quelqu'un? Je pense pas, non.
C'est vous qui voyez. Il y a Jidet qui est connecté, par exemple.
Qui ça?
Mister Jidet.
Jidet.
Alors, c'est pas très politique.
Est-ce qu'on raid JD?
Il fait du Pokémon en ce moment, je sais pas si c'est très politique. C'est vous qui décidez.
Ah, il y a Acropolis aussi.
Ah, bah voilà, faisons ça.
Ah, vas-y, on va raid Mister MV comme des connards. Hop là. Voilà, merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve soon. À très bientôt. Ciao.